I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 mai 2021. Normalement, ça va s'afficher, voilà. On espère que vous allez tous bien. On ne va pas débriefer l'horrible Brest PSG de dimanche soir. On parlera indirectement du PSG Monaco, la finale de Coupe de France qu'on n'a pas débriefé parce que on n'était pas tous dispo, c'était compliqué, donc voilà. Mais bref, podcast un peu spécial ce soir, on n'a pas les trois thèmes habituels, bout du match, perf collectif, perf individuel. On va faire le premier des bilans de la saison, parce que je pense qu'on va en faire quelques-uns, on va faire comme tous les ans. Cette semaine, on fait le bilan dit collectif. En deux thèmes. Donc la première partie, c'est le bilan vu par les résultats, notamment les résultats bruts, pas champion, vainqueur de la Coupe de France, Ligue des Champions, Trophée des Champions, tout ça, on va en parler. Et la deuxième partie, ça sera plus le bilan vu par le jeu. Alors l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un bilan tactique après l'arrêt de la saison au mois de mars. J'ai retrouvé ça dans les archives du podcast. Je pense que là, ça sera un peu moins précis. Ce sera plus peut-être la qualité de jeu générale. Peut-être qu'on fera un bilan tactique plus tard, mais bon. En tout cas, c'est pas le thème du jour. Nous sommes quatre pour revenir sur tout ça ce soir. Nous avons l'équipe habituelle, l'équipe du podcast. Pas de blessés, pas de suspendus. Bonsoir Mathieu.
Salut à tous.
Voilà, nous avons normalement l'enfant terrible Simon qui est là.
Salut les gars, bonsoir les auditeurs.
Les gars et les femmes, puisque nous avons quand même plusieurs auditrices qu'on salue d'ailleurs.
Non, et c'est les auditeurs, ça. Et les auditrices.
D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est nous, les gars. Oh là là, ça commence bien. Bref. Omar, bonsoir à toi.
Bonsoir tout le monde.
Voilà, je vois qu'il y a plein d'habitués sur le live. Il y a des gens qui s'inquiètent de voir Mathieu enlever sa pépé Neymar sur le live. Qu'est-ce que tu veux
Mesure drastique, les premières décisions tombent.
La purge est en route, messieurs.
La purge est en marche.
Voilà.
Marco.
Voilà. On est revenu à Monsieur Verratti, effectivement. J'arrive pas à le reconnaître, mais c'est petit. C'était saison 2016-2017, ça.
Tout à fait.
Exactement. Bon, allez. On est parti. Donc, le bilan chiffré de la saison est très simple. Le PSG est vice-champion de France, deuxième derrière le LOSC à 1 point, 83 contre 82 points, si je ne me trompe pas. Le PSG est le vainqueur de la Coupe de France, 2-0 en finale contre l'AS Monaco. Le PSG est demi-finaliste de la Ligue des Champions, éliminé par Manchester City, 1-2-0-2. Et enfin, le PSG est le vainqueur du Trophée des Champions, victoire 2-1 contre l'Olympique de Marseille au mois de février. Et le PSG, d'ailleurs, rejouera le Trophée des Champions dès le 1er août prochain à Tel Aviv. Enfin, peut-être. On va espérer que ça se calme un peu dans le coin. Bref. Qui veut commencer ? Est-ce que j'ai mis dans les premiers... thème, est-ce que c'est une bonne saison pour le PSG qui était donc la saison du cinquantenaire, même si c'est pas très net, étant donné qu'il y a plusieurs dates de création réparties sur 3-4 mois, on peut dire qu'il y a deux saisons à moitié. Bref, qui veut commencer sur est-ce que c'est une bonne saison pour le PSG? Écoute, Mathieu, où tu veux que je commence, que je fasse le pouls de la saison?
C'est pour toi, c'est le pouls de la saison, c'est pour toi.
Alors, est-ce que c'est une bonne saison pour le PSG? J'avoue que je peine moi-même à trancher. Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que finalement cette saison elle est bien, elle n'est pas bien? Elle m'a énormément rappelé la saison 1994-95 où le PSG avait fait demi-finaliste de Ligue des Champions, avait gagné les deux Coupes nationales à l'époque. Bon, là, cette année, on a fait Trophée des Champions, Coupe de France. La Coupe de la Ligue a gentiment dégagé du calendrier, c'est une très bonne chose. Et donc, le PSG est vice-champion de France. Par rapport aux ambitions continentales du PSG, je pense que c'est une bonne saison. Être dans les quatre derniers de la Ligue des Champions, c'est bien. En revanche, le fait de lâcher le titre de champion de France avec 82 points seulement, c'est insuffisant. La Coupe de France, c'est une très bonne chose de l'avoir gagnée, pour le coup, parce que c'est quand même un marqueur de l'identité du club. Enfin, 14 victoires en 50 années, enfin 51 maintenant, c'est quand même quelque chose de... qui montre la régularité quand même du club dans sa quête de trophées. J'ai du mal à la considérer comme une bonne saison, mais je me souviens, après la saison 2016-2017, qui avait été pour le coup, on avait gagné les deux coupes, le trophée des champions, on avait fait deuxième du championnat, on avait fait huitième en Ligue des Champions, c'était quand même beaucoup moins bon. Alors, dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'on dira que la saison n'était pas si mauvaise. À cet instant, on voit effectivement sur le plan des résultats la perte du titre et on a du mal à dire que c'est une bonne saison. Mais j'ai quand même du mal à en faire une mauvaise pour autant. Une saison, on va dire, moyen plus. Allez, 6 sur 10, notamment grâce au parcours européen. Parce que comme on dit, c'est quand même pas rien le parcours qu'il y a eu. Ça mérite pas une top note, non, c'est sûr. Clairement, autant celle de l'an dernier, j'étais à 8,5. Parce que bah, 4 titres, une finale européenne, enfin tu touches la C1 du bout des doigts quand même. Là, on en est quand même assez loin. Donc, ouais, 6 pour la Coupe de France et le parcours européen. Et avec le titre de champion, je serais peut-être monté à 6,5-7 parce que c'est quand même un titre important. Mais bon, ça valait pas. Je sais que la saison était très compliquée en fait. C'est pour ça que je suis assez généreux sur la note, mais je n'aime pas noter en général. Donc voilà. Mathieu, Omar, vas-y Mathieu, je t'en prie, complète.
Ouais, saison très compliquée parce qu'il y avait beaucoup de facteurs extérieurs, on l'a beaucoup dit, hein, l'absence de préparation, les matchs tous les 3 jours, mais un calendrier extrêmement dense, avec notamment la première partie de saison avec la Ligue des Champions sur 2 fois 3 semaines, donc c'était des matchs très rapprochés, puis là, les matchs qu'on a joués sur la deuxième partie de saison où tout s'enchaînait à partir du mois d'avril, donc effectivement c'était quelque chose d'assez compliqué, les trêves internationales à 3 matchs, ça, pour bien charger le tout, donc oui, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui peuvent... faire figure d'atténuant et de circonstances atténuantes malgré tout, et je reprendrai un peu une phrase qu'avait prononcée Zidane au moment de son départ du Real en 2018, ce qui te marque la valeur d'une équipe et la qualité de sa saison, ça reste quand même la régularité du championnat. C'est évidemment sur la Ligue des Champions tu la sauves et tu montres que tu peux atteindre un très haut niveau sur certains matchs. On a dit la première mi-temps face à City récemment, mais la double confrontation face au Bayern avec une forte résistance à l'aller et puis une très belle qualité de jeu au retour. Le match au Camp Nou, évidemment. Mais malgré tout, le championnat, ça reste le premier juge de paix. C'est ce que tu fais semaine après semaine, match après match. Et en cela, je trouve que ça tire vraiment vers le bas la qualité de la saison et de la note finale que tu pourrais lui attribuer, je trouve. Parce qu'en termes de points, ben, on est sur le plus petit nombre de points depuis la toute première saison de QSI, la saison Comboiré et Ancelotti, fait 79. Parce que même la deuxième saison d'Ancelotti, d'ailleurs, la première saison pleine, on fait 83.
Je me permets de te couper, on fait une très bonne remarque sur live. C'est depuis cette saison 2011-2012, c'est la première fois qu'on utilise 2 coachs différents dans la saison. C'est pas forcément un hasard, quoi.
Non, mais sauf que la première fois, Ancelotti a fait moins bien que Comboiré en termes de points.
Il fait pas pareil. Ils font pas
41-41 40-40 et 39.
Oh, bon.
Là, je crois que c'est 35 en 17 matchs pour Tourelle et 47 en 21 pour Pochettino. Donc ça fait des moyennes un peu supérieures sur la deuxième partie de saison. Mais comme Lille a eu une moyenne aussi supérieure sur la deuxième partie de saison.
Ah bon, on n'a pas rattrapé final, un point à partir du changement. Non, c'est pas compliqué.
C'est resté exactement la même chose. Donc on a augmenté la marche, mais pas suffisamment pour avoir ce titre. Et voilà, ça a été une saison extrêmement irrégulière où la variance ou l'écart de performance que tu peux avoir entre tes meilleurs matchs et les moins bons sont incroyables. T'as l'impression qu'on parle de deux équipes différentes. Entre une première mi-temps, par exemple, face à City, le match aller au parc où tu penses que t'as l'équipe pour gagner avec des champions et que tu vas aller au bout, et d'autres matchs en Ligue 1 où combien de fois on s'est dit c'est l'un des pires matchs au QSI. On se le dit plusieurs fois.
Je peux vous dire que reprenez la semaine du 16 février. Le samedi, on joue à domicile contre Nice. La deuxième mi-temps, on gagne. On se fait mais balader. Mais alors vraiment, on avait honte dans le podcast de lundi soir. Le mardi, on va gagner 4-1 à Barcelone. Voilà, vous avez la saison 2020-2021 du PSG résumée en 3 jours.
Globalement, et 5 jours après, tu perds face à Monaco.
Et 5 jours après, tu fais rien du tout contre Monaco au parc encore. Voilà.
Donc ça a été vraiment les montagnes russes. Une saison assez éprouvante émotionnellement. Très difficile d'en faire un bilan. Et on parlera aussi des cas individuels dans les prochains podcasts un peu en détail. Mais les écarts de performance sont presque absurdes quand on parle de même joueur. Et donc oui, c'est très difficile d'en faire un bilan de cette saison. Malgré tout, la perte du titre avec 8 défaites. 8 défaites face aux concurrents directs, face à des équipes qui jouaient le maintien comme Nantes-Lorient. Globalement, ça laisse quand même un sale goût dans la bouche, et comparé à la perte du titre en 2017 face à Monaco, tu as affronté une équipe de Lille qui n'a pas du tout la même qualité que l'ASM qui fait 95 points. Donc en ça reste quand même un échec. Et il ne peut pas en être autrement d'une équipe qui a Neymar et Mbappé dans son effectif, qui joue un championnat c'est une équipe un peu démesurée par rapport au championnat dans lequel elle évolue. Et perdre ce titre-là, ça semble quand même gros fiasco, inutile de tourner autour du pot et de s'inventer trop d'excuses. Normalement, quand tu as Neymar et Mbappé dans ton effectif, même si tu les as pas sur les 38 matchs, tu es censé être champion de France face à ce Lille et face à ce Monaco. Donc, malgré tout, je penserais quand même plutôt pour la saison d'échec.
D'accord. Donc là, je demandais sur le live, on me dit sur saison correcte, toi, tu serais plutôt genre, il y a des gens qui m'ont dit 4 sur 10.
Ouais, 4,5, 5.
D'accord, bon. 5 pour les deux titres et le parcours européen, mais et pas plus parce qu'il y a trop d'irrégularité.
Pour les quelques très beaux matchs qu'il y a eu, mais il y a eu une telle irrégularité et le nombre de mauvais matchs prend le pas dessus.
Mais c'est marrant, c'est que hier, quand je disais, je crois que c'était sur Twitter, je disais cette saison est enfin finie, elle m'a rincé. Il y a des gens qui me disaient ouais, on a eu beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émotions. Bon, alors là, je sors complètement du champ des résultats, mais paradoxalement, avec du recul. En fait, je trouve que les émotions ont vraiment été absorbées. Il n'y a pas eu de continuité dans cette émotion, de dynamique portée par ça. T'as vraiment l'impression que chaque match était indépendant les uns des autres. Et au final, tu te retrouves à jouer, tu te retrouves à perdre à domicile contre des Nantes. Il y a vraiment chaque match au coup d'envoi de chaque match pour la première fois depuis très longtemps, tu savais jamais à quoi t'attendre. Et venant du PSG, ça c'est plutôt rare quand même. Simon, Omar, beaucoup de 6, 5,5, 6 par là, voilà, entre 5 et 6, on me dit, 5 pour les résultats, 3 pour le jeu, oui, mais là, pour l'instant, on parle que des résultats, le jeu, je pense que le jeu, on sera pas à 6 sur 10, évidemment. Simon, ton bilan un peu de la saison, du point de vue des résultats, mon grand?
Saison mitigée, forcément, décevante, forcément, parce que tu passes potentiellement d'une très grande saison de l'histoire du club, malgré tout, c'est-à-dire malgré les difficultés, les problèmes d'effectifs, le Covid, des problèmes physiques, un changement de coach, le fait de passer pas très loin de la sortie en Ligue des Champions de temps en temps aussi. Malgré tout ça, t'aurais pu faire une immense saison de l'histoire du club, parce que si tu gagnes tout et que tu fais demi-finale de Ligue des Champions au final, tu peux te dire qu'en serrant les dents et malgré les difficultés, t'as été capable de t'arracher et de tenir ton rang et de faire une grande saison, parce que le PSG est pas habitué à aller aussi loin en Europe tous les ans, ça c'est sûr. Mais la perte du titre fait vraiment trop désordre. Tu peux pas te permettre de perdre un titre de cette manière, en perdant autant de matchs que tu étais censé gagner, en montrant pas assez de qualité dans les gros matchs de Ligue 1 la plupart du temps. Perdre un titre là face à ce LOSC là, c'est une très bonne équipe Lille, hein. C'est pas le problème, et avec un immense coach en plus. Mais Lille, normalement, ils doivent faire 4e ou 3e de Ligue 1 et être ravis de leur saison, être très contents de leur saison. Si Monaco et Lyon tenaient un peu mieux leur rang, par exemple. Et nous aussi. Donc non, vraiment, perdre avec aussi peu de points, à un point d'un Lille fort, mais qui est loin du Monaco 2017, et en ayant sabordé un nombre de matchs pas possible, forcément c'est très décevant, et ça te fait passer du mauvais côté, malheureusement, même si il faut pas du tout galvauder ce qu'on a fait en Ligue des Champions, je pense.
D'accord, bon. Ce Doumbé, il va très fort. On nous dit si on va pas aussi loin en Ligue des Champions, on est proche du 2 sur 10. Doumbé, il parle de saison loupée. Alors, quand même, je ne sais pas si on peut parler de saison loupée avec quand même deux titres. Je sais pas, tiens, Omar, toi qui a connu des saisons bien, bien, bien mauvaises, d'autres un peu plus réjouissantes, qu'est-ce que tu en fais de cette saison 2020-2021?
Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour la digérer, parce que très. Très pénible. Il y a eu des choses difficiles à vivre dans cette saison. Au terme stricto sensu du terme, t'accroches pas tes deux objectifs principaux en démarrant la saison. Le titre en Ligue 1, où au final ta discontinuité ne t'a pas permis d'accrocher l'hexagone dans un championnat qui quand même cette année était, je trouve, globalement d'assez bonne tenue et plutôt d'un bon niveau global, notamment pour plusieurs, pas que pour les équipes de tête, mais aussi pour plusieurs équipes qui ont montré des belles identités collectives et qui ont été accrocheuses jusqu'à la 38e journée. Je crois que c'est la première fois depuis 2017 qu'il y a quatre équipes au-dessus de 75 points. En 2017, je crois qu'on devait faire 91 points. Donc, en effet, ça mettait quand même un écart versus les autres équipes. Mais là, effectivement, quatre locomotives qui ont pu tour à tour espérer d'être champions. On passe à côté, on passe à un point en ayant perdu 8 matchs. C'est dire si ben, malgré tout le championnat aurait pu s'offrir à toi en ayant, je pense, une gestion émotionnelle un peu plus raisonnable. Et il y a des faits de match qui, au final, t'ont coûté très très cher. Quand moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est ce match à Lorient avec ce coup de pied arrêté de la dernière minute qu'on viande totalement et qui au final nous coûte le point, enfin un des points qui aurait pu nous amener au titre. Bon, après, tu n'as battu qu'une seule fois tes opposants directs, donc fatalement ça pèse aussi dans la balance.
Et le quatrième au final.
Ouais, qui est le quatrième, que tous les autres ont battu du coup aussi. À côté de ça, une fois qu'on s'est parlé de la Ligue 1, tu es obligé de parler des conditions épiques d'accession au dernier carré de Ligue des Champions, qui méritent quand même d'être saluées parce que je pense que c'est une saison qui aurait pu partir à volo vraiment à plusieurs moments. Moi, je pense encore à la réception de Leipzig au Parc, et il y avait un rendu collectif qui aurait pu te laisser augurer une place hors du podium de Ligue 1 à ce moment-là. C'est des questions en tout cas pour ma part, je me suis posé, que je pense le management du PSG s'est posé et qui ont amené à se séparer du staff précédent. Je pense, parce que bah, le staff précédent a vécu avec un ultimatum qui a été posé assez rapidement dans la saison. Je crois courant octobre, Leonardo parlait de 40 jours pour dresser un bilan. Et en effet, ces 40 jours ont jailli sur bah,
C'était même
le
novembre. Hein.
limogeage. Ouais, c'est
C'est
ça,
la trêve
en novembre.
internationale de novembre, lors des 1 heure face aux supporters, là.
Ah ouais, les questions avec Ambre, en effet. Je voyais pas ça si proche. Bah, en effet, ça a jailli sur un changement de direction technique et avec peut-être pas dans la continuité des résultats escomptés, mais des pics de performance dont bah, aucun d'entre nous ne serait capable de dire s'ils auraient été atteints avec le staff allemand qui s'occupait du PSG jusqu'à la trêve. Donc moi, si je me place du côté, j'ai envie de dire purement positif, je retiendrai, ben entendu, comme tout le monde, je pense, l'épopée européenne où il y a des matchs qui sont des marqueurs de l'identité du PSG et qui ont directement intégré, j'ai envie de dire, le panthéon du club. Et à côté de ça, des moments de négation collective, pardon, totale, qui sont parmi dans les prestations les plus basses qu'on ait pu connaître sous QSI. Donc c'est cette espèce de yo-yo permanent qui ont dû faire appel à des qualités ben, bien différentes de celles qui nous ont permis pardon, d'écraser la Ligue 1 auparavant, qu'on n'a pas retrouvé cette année, où peut-être nos éléments forts ont été trop seuls et pas assez accompagnés pour pouvoir ne serait-ce qu'accrocher un titre de Ligue 1 qui, forcément, au départ de la saison, te tend les bras. Et effectivement, c'est une obligation d'être champion quand tu as un effectif comme celui-ci, à savoir que des internationaux, on parlera pas des moyens financiers, mais voilà, la densité de bons joueurs au mètre carré, au camp des loges, ou de supposés bons joueurs, est telle que ben, le titre ne devrait pas être entre ne devrait pas se fêter à Luchin au moment où on se parle.
Ouais. Effectivement, ça devrait pas être la grande fête à Lille, mais bon, c'est comme ça, ils ont su aller au bout, eux. On nous dit, les émotions, c'est aussi beaucoup les grands matchs qui comptent, le triplé de Kylian au Camp Nou, c'était quand même très fort, oui, bah ça après, évidemment, pour arriver à un bon 7 sur 10, c'est vrai qu'il y a aussi les pics de performance autour de la Ligue des Champions qui a beaucoup rejailli sur le championnat, beaucoup plus que les années
Si tu donnes une note
précédentes.
sur 10 à la saison, tous tes points ils viennent de la Ligue des Champions parce que le parcours en championnat est le plus mauvais quasiment de toute la RQSI. Donc, à partir de là, forcément, c'est
Non, mais parce que
tout ce que tu as fait de positif dans la saison,
Coupe de
ça se tient à la Ligue
France.
des Champions quasiment.
Tu vois, par exemple, si
Et
je
la Coupe
devais
de
noter
France.
la Coupe de France, tiens, par exemple, si je devais découper le truc sur 10, tu aurais bah, 3 points pour le championnat. Sur 10, le championnat serait noté sur 3 ou 4. La Ligue des Champions, pareil, sur 3, 4, voire 5. La Coupe sur 2. Et puis, bah, après, tu bouges un peu les trucs. Tu vois le trophée des champions. Tu vois un peu la qualité. Tu as un point bonus. Et tu arrives autour de 6, par exemple. Enfin, j'ai pas fait le. Tu vois, voilà, j'ai parlé de notes tout à l'heure alors qu'on n'a jamais noté quoi que ce soit. Comme tu dis, Simon, pourquoi on note? Je sais pas. Voilà, mais en tout cas, voilà un peu l'idée. Ça dépend en fait de quelle importance tu donnes à chacune des compétitions. C'est vrai que la perte du titre, après, heureusement que tu as sur une deuxième place et tu t'évites un éventuel tour préliminaire dans la Pampa là, au mois d'août. Donc voilà.
Bien sûr. Après, là, c'est au moins le point positif des dernières semaines. À partir d'avril, le calendrier était tellement dense et après le resserrement en tête autour de quatre équipes, tu ne pouvais pas non plus écarter complètement le scénario catastrophe où tu glisserais en dehors du top 3. Et ça ne joue pas non
4.
Plus à du top. Ouais, où tu glisserais du top 3, donc tu finirais quatrième. Mais tu vois, enfin, on arrache des résultats face à Saint-Etienne à la toute dernière minute, par exemple. Rennes, ça va si. Tu as d'autres matchs comme ça où c'est un peu tendu, ça tombe de ton côté. Mieux, mais au moins on assure vraiment le minimum et qui était de finir dans les deux premiers et d'avoir la Ligue des Champions de façon automatique l'an prochain parce qu'évidemment, là, si on finissait quatrième ou troisième en attendant le résultat du United via la Villarreal, là on serait directement en train de parler de pérennité du projet. Donc là, au moins, tu te dis, t'es peut-être passé à côté de ta saison, mais tu peux retenter ta chance avec les mêmes ambitions la saison prochaine, qui n'aurait pas été le cas si tu avais glissé en dehors du top 3.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a des regrets à avoir sur cette saison un peu 2020-2021 en termes de résultats de... Moi, par exemple, il y a quelques... dans les... Enfin, c'est moi qui ai écrit les thèmes, je vais vous donner d'autres exemples. Il y a pour moi la défaite contre Nantes au Parc, qui est peut-être la plus scandaleuse de la saison parce que on mène, on a fait le plus dur en faisant sauter le verrou le nantais qui défendait quand même assez bas et on sait qu'on a eu des difficultés cette saison contre ce genre d'équipe. Et en fait, c'est paradoxalement, alors il y a les événements extrasportifs qui sont graves, hein, je suis pas en train de remettre ça en cause, mais j'ai l'impression que le club s'est tiré une balle dans le pied tout seul ce jour-là à s'inventer en gros une panique totale. Et c'est ça qui me gêne, c'est que des fois on n'est déjà pas bien parti. Mais il y a eu des moments où j'ai un peu l'impression qu'on a un peu fait n'importe quoi nous-mêmes, en fait. Lorient, tu l'as cité tout à l'heure, Omar, quand tu arraches, hein, enfin, déjà tu arrives à mener 2-1 en étant nul, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on mène 2-1 avec deux pénaux. Bah, Icardi qui obtient un pénalty alors qu'il n'a rien fait du match. Le premier, pareil, je ne sais plus ce que c'est, mais il n'est pas bien clair. On se fait déjà égaliser de façon stupide et on prend ce 3-2. Je crois que les défaites contre les petites équipes, même Lens, la première journée de championnat, où ils se sont tous refilés le Covid entre eux à Ibiza, enfin, il y a eu tellement de défaites ridicules. Moi, c'est vraiment ces matchs de championnat, autant en Ligue des Champions. Allez, on pourrait avoir un regret, c'est de ne pas avoir sorti Mbappé à Metz alors qu'on menait 2-1, mais on menait que 2-1. Et on sait que s'ils égalisent, bah, on perd peut-être le titre. Bon, j'avoue que. La Ligue des Champions, je vois pas comment on peut avoir des regrets parce que City nous est apparu, enfin moi en tout cas, m'est apparu tellement au-dessus de nous collectivement que bon, voilà. Mais j'avoue que cette défaite contre Nantes où tu te tires une balle dans le pied tout seul parce que tu sais pas gérer une situation certes compliquée, mais où tu es censé avoir justement de l'expérience, enfin Nasser Al-Khelaïfi, là, on va fêter ses 10 ans de président. Leonardo, ça fait 15 ans qu'il est directeur sportif. Pochettino, il est entraîneur depuis 12 ans. Alors certes, il tombe pas, heureusement qu'on n'a pas ça tous les week-ends, mais j'ai eu cette impression vraiment d'amateurisme et un peu de n'importe quoi à ce moment de la saison qui est complètement hallucinant, quoi. Après, bon, il y en a d'autres des points perdus, mais c'est vrai que celle-là est peut-être aussi, enfin ce regret-là, ouais, effectivement, sur la gestion d'éléments extérieurs tout au long de la saison, parce que j'ai parlé de Nantes, mais j'ai parlé du Covid aussi. Lorient, bon ça c'est Lorient, on perd, c'est du foot quoi, mais c'est un peu un élément extérieur, c'est que tu gères mal un coup de pied arrêté quand même. Enfin, est-ce que c'est un élément extérieur parce que c'est lié à l'organisation, lié au staff, mais qui venait d'arriver, ou est-ce que c'est lié à autre chose quoi? Bon, vraiment dans ce qui nous a fait un peu passer du mauvais côté, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à nous-mêmes et qui auraient peut-être pu être évitées avec, je sais pas, est-ce que si c'est un peu plus de professionnalisme, est-ce que c'est un peu plus de juste de sérieux, est-ce que c'est juste la faute à pas de chance? Bon, ouais, voilà, mes regrets, c'est peut-être un peu l'impression que bah, je sais pas si le club a tout bien fait dans une saison vraiment compliquée. Alors, enfin, faut le redire parce qu'il bah, il suffit de voir la liste des champions, c'est que des champions qu'on n'avait pas forcément. Bon, City, c'était un peu attendu, Bayern aussi, mais l'Inter n'avait pas été champion depuis 10 ans, le Sporting depuis je ne sais plus combien, en Espagne l'Atlético depuis 7 ans. Il y a quand même beaucoup beaucoup de surprises dans les championnats nationaux, c'est dire à quel point la saison a été bizarre. Mais bon, j'ai quand même l'impression que le PSG, comme le Bayern, aurait dû être à l'abri de ce genre de choses. Donc j'ai un peu du mal sur c'est vraiment les défaites contre les petits clubs, quoi. Mathieu, Omar, Simon, vos regrets éventuels, ou vous pouvez ne pas en avoir et dire, bah écoutez, je vois Simon, tu me dis, c'est le foot, c'est que le foot.
Je citais un grand entraîneur passé par le PSG, ça.
Je me souviens
même pas si tu te rappelles.
Non, c'était qui ça? Franchement.
Tourelle qui s'énerve et qui dit ça.
Ah ouais, je me souvenais plus de celle-là. Moi, je suis plus fatigué. On est fatigué.
Alors, bah, des regrets, oui, bah forcément, quand tu perds le titre. D'un point, forcément des regrets à avoir parce que tu as abordé beaucoup de matchs et t'en parlais, les défaites face aux petits, juste par manque de concentration, de calme, voire de professionnalisme. Oui, oui, là tu peux avoir des regrets parce que même avec Omar à la place de Danilo, moi à la place de Rafinha et Omar à la place Mathieu à la place de Dagba, normalement c'est des matchs que tu peux gagner. Donc non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de, y a rien à dire. C'est des rencontres où tu dois gagner juste en étant un peu sérieux, en gérant tes matchs, surtout que c'est des matchs où tu arrives à marquer à chaque fois. C'est pas les matchs de 2017 où tu as tellement peu de talent devant, où tu galères beaucoup, où tu te casses un peu les dents sur les défenses. Donc non, y a des regrets à avoir de ce point de vue-là. Après, les gros matchs, c'est autre chose. Tu peux aussi avoir des regrets sur les gros matchs parce que là, tu peux dire que la préparation à tout point de vue est peut-être un peu plus proche de la Ligue des Champions. Mais bon, faut dire aussi que le PSG, et ça c'est depuis le début, l'RQSI a parfois du mal aussi sur les gros matchs de Ligue 1, OM excepté, mais bon, est-ce que c'est toujours une grosse équipe, je ne sais pas. Donc, des regrets à voir. Et moi j'aurais peut-être même des regrets un peu sur la Ligue des Champions aussi, parce que toi tu vois City très fort. Moi je vois surtout que le premier match, tu démarres très bien, tu ouvres le score et tu fais n'importe quoi en deuxième mi-temps, mais sans forcément concéder beaucoup de dangers et tu prends deux buts à la con. Et le match retour, pour moi, tu fais pas tout ce qu'il faut pour vraiment faire basculer ton destin, notamment en mettant Herrera comme ça, titulaire de dernière minute, un peu dans, je sais pas, dans une espèce de peur, de panique, de mal faire ou de trop s'exposer, alors qu'il n'y avait pas de raison, à mon avis, de ne pas mettre quatre attaquants. J'ai des regrets de ce point de vue-là aussi. Même si, évidemment, l'histoire retiendra que tu as fait demi-finale et que c'est pas honteux de sortir face au vainqueur de la Champions League. Mais pour moi, on n'a pas tout fait bien non plus face à City.
Oui, non, mais c'est juste que City, en fait, tu vois, t'as une opposition de très grande qualité. Bon, comme tu dis,
pas Lorient, ça, c'est
ouais, sûr. Voilà. J'ai rien contre Lorient, Nantes, et je sais plus contre qui on a, ou même Lens. Enfin, Lens encore, c'était un peu particulier. Mais il y a eu des adversaires. Je regrette, tu peux pas accepter ça, quoi. Perdre contre City, même si effectivement ils gagnent avec pas grand chose au parc. Je peux l'accepter. Perdre contre Lorient alors que tu mènes, perdre contre Nantes alors que tu mènes, et en plus à la maison, j'ai plus de mal. Quoi.
Ouais, y a eu beaucoup de matchs comme ça. Tu peux même citer. Ça commence un peu avec le match face à Bordeaux. Bordeaux, l'allée au parc. Ouais, Monaco aussi, tu mènes 2-0. Je trouve qu'il y a eu pas mal de désinvolture ou de peut-être un peu de suffisance aussi. De se dire, bon, laisser un peu couler les certains matchs en se disant, de toute façon, on est seul dans le championnat, on se rattrapera sur la suite. Comme si on s'est sans doute rendu compte trop tard que le championnat était disputé, qu'il y avait des adversaires, que tu ne pouvais pas te permettre de lâcher complètement des matchs en faisant en jouant trop vite un dernier coup franc quand ta propre équipe est même pas en place, comme ça a été le cas face à Lorient, ou bien en permettant de lâcher complètement émotionnellement, de cracher sur un adversaire ou de t'en prendre à l'arbitre et quitte à laisser ensuite tes partenaires sans toi sur les 2, 3, 4 4 journées suivantes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de une mauvaise gestion à ce niveau-là de la part des joueurs qui n'ont pas pris conscience que les titres seraient plus disputés. Et en même temps, c'est toujours un peu ce qui est piégeux parce que quand tu commences ta saison en Ligue 1, tu vois l'équipe de Lille, tu vois l'équipe de Monaco par exemple. Ce n'est pas forcément des joueurs très connus, mais je pense que sur les dernières saisons de Ligue 1, il faut maintenant changer un peu de, pas forcément de mentalité, mais d'approche, ou du moins de regard sur tes concurrents en disant que ok, tu vas avoir pas mal de jeunes joueurs dans tes équipes concurrentes, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de très très bons joueurs en Ligue 1 et joueurs très adaptés au championnat aussi, et que c'est pas du tout à écarter en début de saison qu'un Tchouaméni qui est pas du tout connu et qui vient d'arriver à Monaco 6 mois avant, qui a pas fait une très bonne première demi-saison à Monaco en venant de Bordeaux, puisse exploser totalement et devenir un milieu de référence du championnat. C'est quelque chose maintenant qu'il faut prendre comme étant dans l'ordre de la logique, parce que c'est un championnat de jeunes joueurs où tu peux avoir des explosions un peu inattendues. Pareil, Botman qui arrive à Lille, au début, tu sais pas Enfin, tu le connais pas, personne ne le connaît quand il arrive.
Tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi bon, quoi.
Voilà, c'est ça. Un an plus tard, c'est un défenseur, peut-être que parmi les 2-3 que prendrait un grand club qui voudrait reconstruire sa défense centrale. Pour en prenant un défenseur pour les 10 prochaines années. Donc je pense qu'il faut aussi, à l'avenir, pour prendre un peu plus au sérieux ce championnat, dans le sens où tes concurrents n'auront jamais une équipe de même niveau que toi ou de meilleure équipe que toi. Alors vraiment cas à la Monaco, mais enfin, ça arrive tous les X années, c'est pas à prendre comme référence pour chaque saison. Mais il faut sans plus les prendre au sérieux en se disant que voilà, il y a des joueurs qui sont peut-être inconnus aujourd'hui, qui ont 19, 20, 21 ans, mais la logique dans ce championnat-là, c'est la Ligue des Talents qui se développe et qui deviennent des très bons joueurs très rapidement. Et donc probablement que cette prise de conscience nous a un peu manqué et nous aurait sans doute permis d'éviter certaines erreurs, parce que je pense que ça s'excuse de pas faire que des très bons matchs durant cette saison. Pour toutes les raisons extérieures qu'on a pu évoquer, pour la limite de l'effectif également, qui compte aussi.
L'absence de préparation. Mais,
l'absence de préparation, évidemment.
On me le dit sur la ligne, mais c'est vrai.
Mais il y a des matchs que tu as en main et qu'avec un peu de gestion et en jouant un peu avec ta tête, tu dois prendre des points, effectivement. Donc, pour tout ça, je pense qu'il y a eu pas mal de. Au-delà de la qualité de jeu et des facteurs extérieurs, il y a aussi une inconséquence ou une désinvolture, on va dire, dans la gestion de certains matchs qui font que tu perds des points de façon bête et à la fin tu te retrouves à cravacher derrière une équipe qui est meilleure que ce que tu pouvais imaginer au début.
Ouais, non mais oui, c'est ça, tu te retrouves un peu à courir après, et autant en 2014-2015 t'avais réussi à rattraper, autant là tu n'as pas réussi, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire, Omar, sur d'éventuels regrets ou pas justement de ton côté? Parce que justement, on n'a pas été assez bon, et dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des regrets.
Bah, t'as synthétisé ma pensée.
Je ne suis pas très surpris, peu, en fait.
Très peu de regrets pour ma part, parce qu'on a, on a tout entre nos mains, en fait, pour être totalement acteur de nos résultats. On a pêché par... je pense par suffisance à certains moments, en pensant que le sprint final nous réussirait forcément et que à côté ça ferait des faux pas. Non, ils ont pas lâché. Il y avait une, en fait, le Covid a tellement nivelé les valeurs et mis les projets sportifs à plat que au final c'est l'équipe la plus collectiviste du lot qui s'en est sortie. Donc non, pour ma part, j'ai pas de regrets. Les regrets, ils sont plutôt individuels et c'est pas le moment d'en parler. Et moi, ça m'amène à des vrais questionnements sur le profil des joueurs à qui doivent peupler l'effectif du Paris Saint-Germain et les compétences qu'on va leur demander dans le futur.
D'accord. Bon, sur les résultats, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, souligner l'épopée européenne, pointer du doigt une nouvelle fois, les manques en Ligue 1, je pense qu'on les a bien pointés du doigt. Non, sur le plan des résultats, l'épopée européenne, on...
Peut-être dire qu'on a bien géré la Coupe de France malgré tout, parce que quand tu vois ce que tu as produit en championnat et aussi la manière dont tu avais perdu la Coupe de la Ligue et la Coupe de France il n'y a pas si longtemps, tu aurais pu dire que c'était typiquement une saison pour faire un match à la con face à une équipe beaucoup plus faible que la tienne, mais très remontée et très sérieuse, alors que toi, tu mettais une équipe bis pas forcément concernée. Au final, ça se passe bien face à des bons adversaires. Tu as Lille, tu as Montpellier, tu as Monaco en finale. Et là, pour le coup, c'est des matchs que tu gères beaucoup, beaucoup plus sérieusement qu'en Ligue 1, car des matchs couperaient, pardon.
Ouais, non, mais c'est vrai que tu as raison, la Coupe de France... Bon, certains ici voulaient la bazarder dès le huitième de finale, mais finalement, on a bien fait d'aller au bout, quoi. Alors après, est-ce que ça nous coûte le titre ou pas, puisque je pense évidemment au PSG-Lille en huitième de finale, où Lille avait vu son calendrier être allégé. Je ne suis pas certain que ça aurait changé grand-chose dans le fond. Mais bon, c'est vrai que Mathieu, tu nous dis que Pochettino a limite mis des meilleurs 11 en Coupe de France qu'en Ligue 1, oui, sur la demi-finale.
Ouais, c'est vrai, en y réfléchissant... Finale peut-être mis à part, il y a des vraies équipes en vrai qui sortent en Coupe de France, alors que c'était déjà une période où le week-end c'était très tournant et tu savais pas trop si les meilleurs jouaient.
Disons que depuis 3-4 matchs, Pochettino réserve le milieu type entre guillemets qui est Paredes Gueye, qu'il a aligné en Ligue des Champions pour les matchs de Coupe, alors qu'il met Danilo Herrera 3 ou 4 fois de suite en Ligue 1. C'est un peu particulier, Ça donne un peu l'impression qu'il s'est permis de faire une énorme revue d'effectifs à partir du mois d'avril. Globalement, tout le monde a eu sa chance et où certains joueurs sont revenus comme ça dans l'équipe alors qu'ils paraissaient avoir disparu et limite avoir été écartés par leur entraîneur. Je pense à même Kerrer qui a pu enchaîner deux matchs d'affilée, Rafinha aussi qui a enchaîné deux matchs. Je parle évidemment de Sarabia qui a eu 4 ou 5 matchs consécutifs aussi pour montrer sa valeur, plutôt ses
Pour
défauts.
gratter sa place
Mais
à l'euro.
c'est ça, c'est
Bravo à
ça.
lui.
Je suis pas sûr que Luis Enrique ait regardé PSG Saint-Etienne quand même. Mais voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça qui ont eu leur chance, qui ont été relancés. Et tu as eu l'impression d'une sorte d'audit ou de revue d'effectifs de la part du staff à partir sur les 2 mois où tu joues en fait ta saison, qui est assez étrange. J'imagine que ce ne sont pas les seules raisons, qu'il y a aussi des données physiques qui font que tu te permets de ne pas mettre les joueurs 2 matchs d'affilée parce que tu as un effectif large et parce que tu te rends compte que certains baissent de performance quand ils enchaînent trop de matchs. Mais ça a aussi donné un peu cette impression aussi parfois d'une gestion un peu bizarre des ressources sur la fin du championnat.
C'est ce qu'on dit sur le live, que le Pochettino voulait son premier titre. Peut-être pour ça, c'était plus simple d'aller chercher la coupe que le championnat. Non, juste un dernier regret, moi, c'est peut-être finalement sur notre gestion du tout début de saison. Le fait en fait, d'un peu de sacrifier tout ce qui est préparation. On avait le débat à l'époque, on était tous d'accord pour dire que tu peux pas bazarder des matchs de Ligue 1, notamment quand tu joues Marseille au Parc et tout ça. Mais je me demande à quel point ça nous a fait mal dans la première partie de saison, sur notamment vers décembre où on perd pas mal de points bêtement, même sur cette fin de saison, là on a vu qu'on avait réussi, on avait beaucoup travaillé physiquement en janvier, qu'on avait réussi un peu à tenir jusqu'au mois de mars-avril, mais qu'on était quand même un peu sur la jante pour finir. Bon, je sais pas si la façon dont on a anticipé cette saison Covid, qui est vraiment très particulière, était la bonne. Après, là, on sort du cadre des résultats et on ne pourra jamais savoir. Et puis bon, est-ce
Il
que
y a quand même
aussi.
moyen de faire mieux parce qu'en début novembre, tu avais 5 points d'avance sur Lille.
Ouais.
Et 5 points d'avance, et je pense que Lyon était déjà derrière Monaco, évidemment, très, très loin. En début novembre, du coup, après la 10e journée, ça doit être quelque chose comme ça. Et tu dis que si tu avais un peu mieux géré le match face à Monaco, le match face à Bordeaux, ça t'aurait fait quoi? 3 et 2 points en plus, donc 5. Tu avais une avance suffisante pour ensuite gérer ta saison différemment, te permettre de refaire une vraie préparation. Sans craindre de le payer sur le plan des résultats en championnat. Donc sans doute que voilà, cette façon bête dont tu as perdu les points face à Bordeaux et face à Monaco, a relancé le championnat déjà, et ensuite n'a pas permis de gérer comme tu l'aurais aimé cette saison si particulière, effectivement, où à partir du moment où tu faisais pas de préparation au début de saison par la force des choses, il fallait bien essayer de la compenser. Je ne sais pas à quel moment ça a été fait, si ça a été un peu dilué sur l'ensemble de la semaine. C'est compliqué, hein. J'imagine que pour le professionnel qui ont travaillé, c'était un peu la première fois qu'il travaillait dans ces conditions-là et sous ces contraintes-là. Malgré tout, c'est vrai que quand tu regardes le résultat, combien de fois on s'est dit durant la saison que Paris faisait une première mi-temps pas trop mal, mais le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps était cataclysmique, il remettait complètement en jeu les adversaires. Notamment sur la deuxième partie de saison sous Pochettino. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a un peu de regret dans la gestion que tu as pu avoir de championnat, où malgré tout, tu as de la marge. C'est un peu comme le Bayern qui a un peu mal commencé, mais malgré tout, tu raccroches les bouts parce que tu as plus de qualité que les autres et au final, tu t'en sors. Là, à Paris, c'est quand même un échec de ne pas t'en être sorti alors que tu as malgré tout beaucoup trop de qualité pour pas accrocher ce titre.
Ouais. Bon, on nous dit les points, on les perd beaucoup trop vite cette saison. Bah, dites-vous que c'était une stat complètement folle qui est sortie samedi ou dimanche avant le match. C'est qu'à l'extérieur, le PSG a été mené que 51 minutes. En 51 minutes, en étant mené, on a quand même perdu 4 fois, quoi. Donc, on les a plutôt perdus sur le tard que sur le tôt, en fait, les points. Je crois que le match où on a été le plus mené au score à l'extérieur cette saison, ça a été le match à Lens, où bon, c'est un match très particulier, hein, on joue avec une équipe B, clairement, à part Verratti, et peut-être Bernat d'ailleurs aussi, bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que sinon, c'est plus combien de fois le PSG a craqué en fin de match, quoi. Là, voilà, c'est un peu la préparation, c'est un peu tout ça. Bref. On nous dit que la saison est aussi la conséquence de notre bon parcours en Ligue des Champions l'an dernier. Oui, bah évidemment. Bah. Mbappé a quand même fait des déclarations très fortes au mois de décembre quand il dit, bah écoutez, c'est pas compliqué. On n'est pas dans une nouvelle saison, on est dans la fin de la suivante. On n'y arrive pas parce qu'on est rincé, quoi. Donc c'est comme ça. Après, il faudrait peut-être aussi que le PSG mette un peu plus de poids sur les instances, par exemple. Parce que c'est pas normal qu'en termes de calendrier, déjà, je ne sais même pas à quel moment tu peux valider un calendrier où tu commences le championnat avant la finale de Ligue des Champions de l'année d'avant, quoi. Enfin, ça, rien que ça, dès le début, déjà, c'était bon. C'est comme ça,
Le
quoi.
français demi-finaliste en plus,
Ouais.
PSG Lyon.
Oui, en plus, oui. Enfin, bref. On va passer au bilan vu par le jeu. Je pense qu'on a un peu fait le tour des résultats, hein. C'est que bon, de 40 minutes à parler de résultats, alors que bon, c'est quand même pas la partie la plus intéressante du football. Enfin, c'est important, mais on peut faire quand même le jeu. En termes de jeu, est-ce que pour vous, c'est la plus grosse déception de la saison, la qualité de jeu générale? Je sais pas, Omar, ce que t'en penses. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Est-ce que c'est peut-être ça, finalement, la plus grosse déception de la saison, ce niveau de jeu moyen? Encore, je suis gentil.
Ouais, je pense que c'est ce qui fait qu'il te manque des points et des victoires que tu aurais dû acquérir, à mon sens, beaucoup plus facilement si tu te repérais sur une identité plus claire et que tu avais pu, j'irais, encaisser le contre-coup et les méformes de tes joueurs forts, parce que le creux que Mbappé aura connu au sortir de l'hiver, au final, nous aura coûté quelques points. Mais après, je pense que le projet sportif du PSG, c'est pas que Mbappé gagne les titres quasiment seul, en tout cas, et autant de responsabilité, pardon, sur le pôle offensif. Après, moi, c'est vraiment là notre difficulté à créer du déséquilibre qui aura été constante tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas. La réponse ici, aucun de nous ne l'a, mais je ne sais pas si c'est lié à un état physique qui n'aura pas été optimal tout au long de la saison. Mais j'ai vraiment trouvé qu'en tout cas, dans les 30 derniers mètres, on a une équipe qui a beaucoup, beaucoup manqué d'idées. Et c'est ce qui nous a coûté quelques points face à des blocs bas et des lignes mieux tenues. C'est ça, c'est vraiment regrettable parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'antériorité ensemble. Donc, on sera en droit d'attendre des choses un petit peu plus mécanisées, certaines routines offensives qu'on n'a pas vues au cours des derniers mois et que on ne pouvait difficilement voir apparaître sous Pochettino, qui est toujours dans sa période d'observation, donc qui va commencer à coacher à partir du mois de juillet. Donc peut-être que des choses changeront à partir de ce moment-là. Mais ça, moi, vraiment, mon regret principal, c'est vraiment, voilà, peu de clarté dans l'identité en elle-même, même s'il y a eu, je trouve, une espèce de lueur d'espoir en février, où on avait décidé de prendre le parti d'être une équipe qui aurait fortement misé sur ces éléments les plus techniques. Je pense que c'était vraiment quelque chose à creuser, parce que ça rapprochait aussi Neymar de Mbappé, ça donnait peut-être un volet un petit peu plus fantasque à l'équipe. Et je pense que ce parti pris-là n'aurait pas été le plus risqué, mais je pense que c'était ce qui correspondait le plus à nos états de forme et aux individualités fortes de l'équipe. Donc, ce sera peut-être la piste qu'on prendra l'année prochaine. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux, parce qu'on ne peut pas être une équipe au sens tel qu'on. Au sens comme on en a vu ces dernières années, c'est-à-dire qui est capable d'être courte avec des distances de marquage bien tenues. Donc on aura forcément quelque chose de très différent à proposer, mais encore faut-il que les éléments forts de cette équipe puissent le constituer, puissent avoir le temps, la durée, la consistance d'être là samedi après samedi pour qu'on puisse devenir l'équipe qu'on doit être.
Ouais, et c'est ce qu'on nous dit sur le live aussi, c'est que finalement le changement d'entraîneur n'a strictement rien changé en termes de jeu. Il y a pas mal de gens qui sont déçus de ça en fait, quoi. Oui, Mathieu?
Je trouve que ça a changé les choses. Après, le rendu en termes de qualité, je dis pas, mais le parti pris est différent, je trouve.
Oui, mais je pense que c'est le rendu que les gens jugent,
Ah oui, non, le
effectivement.
rendu, c'est sûr.
Le rendu, il est
Et
dégueulasse
après,
dans les
c'est
deux
vrai que
cas, hein.
pour. Après, pour rebondir un peu sur ce que disait Omar, c'est sûr que Verratti et Neymar, 40% des minutes jouées dans la saison en Ligue 1, Tu construis rien sur cette base-là. Ça, la première des choses et la priorité, c'est de mettre fin à la spirale de blessures qui ronge l'équipe depuis 3 ans minimum, mais en réalité, ça date encore un peu avant, parce qu'il y a déjà des débats sur le staff médical, etc. Parce que quand tu es meilleur joueur à tout temps de match, tu construis rien du tout, tu as un turnover qui est forcé, et du coup, l'identité ne peut pas se développer, l'entraîneur ne peut pas travailler dans la continuité. Après, si tu fais un peu le fil de la saison, on commence avec Tourelle qui fait le choix de ne pas repartir du système qui avait été le sien lors du Final Eight. Ça a peut-être été la première surprise un peu du début de saison. Il a commencé par beaucoup de mouvements sur le plan tactique, des compos qui changeaient quasiment d'un match à l'autre en fonction de l'adversaire, en fonction des joueurs à disposition, des systèmes aussi qui variaient beaucoup. Avant de se stabiliser vers la fin de son mandat sur la défense à 3, sur un parti pris d'un PSG qui risquerait beaucoup moins, qui essaierait de se protéger d'abord lui et de ne pas faire trop d'erreurs et ensuite de compter un peu sur un moment de brillance sur le plan individuel de la part des talents qu'on peut avoir devant. Ce parti pris-là, il a un peu changé du coup avec l'arrivée de Pochettino qui a d'emblée adopté son 4-2-3, quitte à parfois, sur plan physique, que son équipe ne soit pas capable de le tenir. On a vu pas mal de matchs où, sur le plan de la transition défensive, on se faisait assez transverser, parce qu'en termes de physique, on n'était pas en mesure de tenir vraiment un pressing, et rapidement les distances allongées, et puis c'est là où Navas entrait en jeu pour nous sauver un nombre de points assez incalculable. Mais comme l'a dit Omar, je trouve que malgré tout, il y a quelques points positifs qui te font espérer sur le plan du jeu. Si encore une fois t'es capable de garder tes meilleurs joueurs disponibles sur une partie de la saison, moi pour être clair, le match aller face au Barça, le match retour face au Bayern et la première mi-temps face à City, on peut rajouter aussi le match face à Lyon, c'est des pics qui sont quand même assez hauts en termes de qualité de jeu, et surtout qui montrent une identité assez claire aussi de l'équipe, c'est-à-dire une équipe qui prend un parti qui est peut-être pas usuel, habituel de la part d'autres clubs en Europe actuellement, mais vraiment de miser clairement sur le talent de ses joueurs, de leur donner une certaine liberté sur le plan offensif, surtout de leur permettre de combiner, de les rapprocher, pour qu'ensuite ils puissent mettre à profit leur créativité, leur inventivité, et proposer un football qui a parfois été vraiment d'un haut niveau avec ce qu'on a pu voir face à City, face au Bayern au retour, pas mal d'occasions, un style vraiment qui monte par un pari avec une certaine identité, une identité un peu sud-américaine, un football assez libre, assez créatif, pas vraiment standardisé, mécanisé, comme on peut le voir dans d'autres équipes en Europe. Mais malgré tout, une piste quand même à creuser, parce que c'est là, je pense, où ces joueurs se sentent le mieux. Tourelle a parfois eu tendance à vraiment les séparer, les en plusieurs zones. Je pense que cette idée-là de les rapprocher, de les faire jouer ensemble et de leur donner une certaine liberté pour se déplacer sur l'ensemble du terrain, ça a pu donner des séquences de jeu assez sympas et qui en plus donné au PSG une certaine une couleur un peu différente par rapport à d'autres équipes en Europe. Donc, peut-être une piste un peu à creuser, voir comment tu arrives à associer les Neymar, Mbappé s'il reste, Maria, Paredes, Verratti.
Ce qu'on me dit sur live, Mathieu, et c'est que Pochettino il a fait ça, mais il finit aussi avec un milieu Danilo Herrera en Ligue 1, quoi.
Ça va être mon dernier point, et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi Pochettino s'est mis dans un turnover comme ça sur les derniers matchs de Ligue 1. Je sais pas si c'est une question physique, si c'est le parti pris vraiment de la revue d'effectifs total en disant ok, je donne la chance aux 26-27 joueurs de l'effectif, et comme ça j'ai suffisamment d'informations pour prendre les décisions pour trancher sur la demi-saison. Ça peut être ça. En tout cas, Pochettino avait annoncé la couleur, puisque avant le sprint final, il dit dans une interview aux Parisiens, moi, c'est pas sûr cette saison, on peut gagner avec des champions, ça sera pas la mienne, ce sera celle de Tourelle. Moi, je suis juste là pour prendre les informations et je vais être jugé sur la saison prochaine. Alors, chacun pense ce qu'il veut un peu de cette déclat. Mais malgré tout, il avait prévenu avant le sprint final. C'est une interview avant le match face à Lille dans le Parisien. On verra ce que, évidemment, ça t'amène à être forcément plus sévère sur ce qu'il fera l'an prochain. Ça, c'est évident. Tu ne pourras pas accepter un turnover comme ça, systématique en championnat, en coupe, avec parfois des remplaçants qui sortent et qui deviennent titulaires 5 matchs d'affilée sans raison. ni une identité de jeu qui reste encore à parfaire. Donc évidemment, il y aura des progrès qui sont attendus dès la saison prochaine dans la continuité, dans ce que tu peux faire dans la durée. Ça passera par une meilleure préparation physique et par un état différent de la part de certains joueurs, de se séparer de d'autres qui ne montrent pas les garanties suffisantes sur le plan physique, évidemment. Et voilà, jugeons, du coup, prenons Pochettino au mot, jugeons-le dès la saison prochaine et voyons de quelle formule il repart, s'il part de son 4-3-1 qu'il a utilisé durant quasiment l'ensemble de la saison, de la demi-saison, ou s'il repart plus du 4-3-3 qu'il a utilisé sur les deux derniers matchs, pour voir si c'était vraiment circonstanciel, lié au turnover qu'il voulait faire, ou bien si c'était plus en vue de la saison prochaine. On aura la réponse assez vite, j'imagine.
Oh bah c'est pas certain, parce que tous les...
Comme avec le mercato, avec les choix un peu qui sont faits.
Il risque d'y avoir pas mal de changements. Donc Mathieu, tu as développé énormément de points différents. Là, tu prendras combien 5 bonnes minutes. Simon, pour un peu compléter, on lui dit équipe en fin de cycle. Oh, je suis pas certain que...
Équipe en fin de cycle, les gens disent ça tous les ans, c'est normal.
Voilà, mais c'est quand les cadres partent. Là, à part peut-être Mbappé, la plupart des cadres du PSG qui ont été cités par Leonardo après la défaite à Manchester City vont rester. Donc on peut difficilement parler de fin de cycle, plutôt de retouches à faire. D'ailleurs, toutes les déclarations ont été plutôt en ce sens de retouches plutôt que de fin de cycle.
Et puis le Covid n'ouvre pas le marché au point où tu peux changer 6-7 joueurs d'un coup. On n'est pas dans ce genre d'année-là, à mon avis aussi.
C'est vrai.
Mais pour revenir sur le jeu un tout petit peu, du coup, l'histoire que Mathieu raconte, à mon avis, elle est bonne. C'est-à-dire que Pochettino arrive, il met directement au premier match Verratti numéro 10. Là, on se disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? C'est-à-dire, là, Papu, c'est parti. Pochettino arrive, c'est le saut dans l'inconnu. Il nous fait des compositions qu'on n'avait pas vues depuis Emery au tout début de la saison 2016. On ne savait pas trop ce qui pouvait en résulter. Et au final, derrière ce Verratti numéro 10 un peu bizarre de prime abord, se cachait plutôt le projet, effectivement, de miser le plus possible sur tes joueurs techniques et tes joueurs talentueux pour tout simplement dominer les matchs, avoir cette assise-là. Et pouvoir mettre le plus de qualité possible de cette façon-là. Là où le coach ou les coachs précédents parfois misaient un peu comme ça sur une espèce d'équilibre où il faut en gros un peu de talent, un peu de travail et paf, ça fait des chocs à pic. C'était un parti pris beaucoup plus extrême sur les premières semaines où tu vois un double pivot Verratti Paredes qui avait peu été vu et qui avait peu marché sous Tourelle. Alors que là, dès les premiers matchs, ils se trouvent beaucoup, ils se cherchent beaucoup, on voit une vraie entente, et ça amène quelques grands matchs, hein, parce que le match contre le Barça, le fait de résister si bien au pressing de City en première mi-temps à l'Etihad, d'autres matchs de Ligue 1 aussi, où ils touchent 120 ballons chacun, avec que des joueurs techniques autour d'eux, c'est-à-dire que Draxler revient en scène, tu mises beaucoup sur Neymar, sur beaucoup de jeux entre les lignes, avec des attaquants proches les uns des autres. Parfois de manière un peu stéréotypée, un peu caricaturale aussi, où on se disait, bon, ça manque de jeux extérieurs, mais t'as peut-être pas non plus toujours les profils pour développer beaucoup de jeux extérieurs, donc on verra bien ce que ça donnera à l'avenir, on pensait. Et à mon avis, ce projet de jeu qui reposait sur une base technique, sachant que des milieux techniques, t'en as pas 500. C'est-à-dire que sorti de Verratti et Paredes, t'as plus des milieux... contextuel d'appoint, de travail et de devoir plutôt que des vrais techniciens, des vrais amis du ballon. Dès que Verratti est sorti de l'équation, en vérité, ça a été beaucoup plus compliqué de maintenir cette formule-là de la technique. Et du coup, ton double pivot, ou en tout cas ton milieu un peu mixte avec toujours Verratti soit relayeur, soit carrément double pivot, soit numéro 10, Paredes en deuxième joueur technique et éventuellement un troisième larron, voire pas du tout, ça pourrait être Draxler ou Di Maria en joueur hybride qui sont à la fois un peu des milieux offensifs, un peu des joueurs de ligne d'attaque pure, qui t'apportent un peu comme ça ce profil hybride. Ça n'a pas été possible de le maintenir, et si tu prends le duo Verratti-Paredes, les premiers matchs qu'ils jouent ensemble, t'as que des victoires, je crois 5 victoires, un match nul, et ensuite ils ne jouent plus du tout ensemble, ou très peu, c'est-à-dire quelques minutes contre Monaco je crois, et ils rejouent un tout petit peu ensemble d'autres matchs, donc une victoire en championnat et les deux défaites face à City, mais où l'entente avait plutôt bien fonctionné. Et à mon avis, dès lors que Pochettino est obligé de garder un peu, de changer un tout petit peu sa formule avec des compositions plus tournantes, alors il s'est très peu expliqué sur les raisons, donc on peut que spéculer. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de raisons et qu'elles sont dans l'ensemble valables, parce que tu rigoles pas avec ce genre de choses normalement. Sauf qu'il a continué de garder toujours ses principes de liberté, de jeu axial. Parfois ça a bien marché, parfois ça n'a pas marché du tout, où ça a donné vraiment des matchs insipides, où l'équipe soit n'y arrivait pas, soit n'avait pas toujours envie, soit manquait de jus, soit manquait tout simplement de talent. Des moments aussi où tu jouais à 4 attaquants, ça marchait bien, des moments où tu passais à 3 attaquants, tu ne savais pas vraiment pourquoi. Donc ouais, là ça a été un peu le flou artistique avec des hauts et des bas. Jusqu'à la dernière journée et l'espoir de peut-être être champion de Ligue 1. Donc forcément, il faudra voir ça l'année prochaine, remettre tout à plat et voir ce que le coach a vraiment derrière la tête. Parce qu'à Tottenham, on voyait déjà beaucoup de compositions tournantes, mais l'idée de jeu derrière ça était assez définie. Alors, ça pouvait changer d'un semestre à l'autre, d'une saison à l'autre, parfois c'était très jeu de position léché, parfois beaucoup plus libre, parfois beaucoup de jeu extérieur, parfois du jeu axial, beaucoup de jeu direct dans la profondeur, du jeu long. Et on a vu beaucoup de choses de Pochettino à Tottenham, à voir, mais toujours cohérent au demeurant, et à voir ce qu'il pourrait faire au PSG à partir de ça. Mais c'est vrai que dès lors que tu as perdu un peu le fil de ce PSG un peu technique, un peu tango, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué de trouver des qualités à cette équipe. Et en général, c'était... Un peu, ouais, c'est ça, beaucoup plus brouillon dans le jeu et jusqu'à faire des compositions où on se disait, enfin, c'est fait au hasard, quoi. Qu'est-ce qui justifie de faire un dernier match de championnat absolument crucial pour le titre, parce que Lille n'est pas à l'abri d'un faux pas à Angers, en mettant Herrera, Danilo et Rafinha. Il y a des trucs, et tu fais pas un tiers du match pendant une demi-heure. Il y a des trucs comme ça que.
Il a fait
non, évidemment, évidemment.
Comme Tourelle. Bon. Comme Tourelle, il a fait plein de compos. À la fin, il gérait des états de forme, quoi.
Tourelle s'en expliquait beaucoup. Et en plus, il y avait des. Disons qu'il était beaucoup plus protagoniste et interventionniste dans ses plans de jeu quand ils étaient préparés. Parce que bon, le staff allemand précédent, parfois, était un peu en démission sur la fin de son mandat, j'ai trouvé. Mais à la limite. C'était assez transparent, alors que là, Pochettino, c'est beaucoup plus... non, vous savez, moi, je suis là pour observer. On ne comprend pas tout. Mais bon, je salue quand même la note artistique pour le début de mandat ou le projet de jeu. Tout pour la technique a été intéressant et à rebours de beaucoup de standards actuels. Et ça a été vraiment rafraîchissant par moments. Et les mi-temps que tu fais contre le Bayern au Parc ou contre City au Parc, tu as vu des choses uniques. Et là, tu te dis, si tu es capable de jouer comme ça, en étant plus constant... En étant plus en forme et mieux préparé, ça peut donner quelque chose d'assez grandiose. Ouais. Il y a eu des promesses quand même.
Ouais. Moi, il y a quand même un truc sur lequel je voudrais revenir. C'est un peu comme tu dis, tu as beaucoup parlé de Pochettino. On a quand même pas mal. Enfin, Tourelle a quand même fait une demi-saison avant enfin, un peu moins, puisqu'il a fait 4 mois et l'autre en a fait 5. Mais autant il y a eu des choix assez importants de Pochettino sur les matchs de Ligue des Champions, autant ce que je trouve. Un peu de désespérant, c'est à quel point la Ligue 1 et même des fois en Coupe de France, on se demande un peu quel est un peu le degré d'intervention possible des entraîneurs, quoi. Parce que il y a eu quelques choix par-ci par-là, effectivement, et vous les avez cités, Mathieu, toi, Omar, tout ça, mais sur 75% des matchs de Ligue 1, j'ai l'impression que tu pourrais mettre Tourelle, Pochettino, Luis Fernandez, Rudy Garcia ou autre. T'aurais exactement le même rendu, quoi. Et je trouve que c'est un peu Tourelle a été notamment licencié. Bon, il y a la partie communication, tout ça, où il était un peu énervé, mais on lui a quand même, dans le podcast de débrief de son mandat, reproché un peu le travail de fond, le manque d'identité collective, les multiples changements tactiques, etc. etc. Et finalement, avec Pochettino, qui, lui, pour le coup, n'a pas beaucoup de changements, enfin, une vraie continuité 4-2-3-1, allez, un peu de 4-3-3 sur la fin de saison, mais t'as vraiment pas l'impression que ça change quoi que ce soit, en fait. C'est un peu ce qui me gêne.
Sans philo que tout au long de la saison, on a plusieurs fois débattu aussi de ce qui était possible de faire avec le duo Neymar-Mbappé. Hein.
Non, mais je suis d'accord.
Parfois, la construction de l'effectif avec des joueurs plus laborieux derrière qui allaient assurer les déséquilibres, compenser les déséquilibres de ton duo d'attaque. Mais quand des membres de ton duo d'attaque n'est pas là, voire les deux, bah, il te reste plus que les joueurs un peu de besogne et qui sont derrière. Forcément, ça te donne une équipe beaucoup plus hétérogène que tu as eu par le passé. Donc il y a des contraintes internes à l'effectif. Ça, c'est
mais ça, je suis d'accord, Mathieu. Mais par contre, tu vois, il y a des moments, en fait, aujourd'hui, comment le PSG essaye de jouer que ce soit avec Pochettino ou Tourelle, franchement, je suis incapable de le dire. Il y a des combinaisons entre deux joueurs, voire trois, t'en as très peu. Je trouve vraiment que cette année, la pauvreté du jeu, c'est ça, quoi. C'est qu'à la fin de la saison, on est incapable de dire... Alors, Simon peut peut-être nous trouver quelque chose où on en a parlé, effectivement, du mois de février, là, le parti pris du tout le talent sur le terrain. Mais en revanche, la façon dont le PSG tente d'attaquer, bah franchement...
Très très peu de continuité, là, t'as raison à ce niveau-là. C'est pour ça que la saison est pas bonne, hein, sur le plan du jeu. Combien de fois on s'est dit ce match est pas bon, c'est un des pires de QSI. Il y a très très peu de matchs maîtrisés où Paris tient le ballon et est assez à l'abri de ce que peut faire son adversaire. En réalité, les seuls matchs, t'as cette sensation, c'est face à Dijon, face à des équipes vraiment en bas de tableau, ou bien qui ont été réduits à 10 au bout de 20 minutes comme Reims et Montpellier. Sinon, il n'y en a pas. Ça se tient sur les doigts d'une main, voire deux, allez, si on est gentil. Mais en ça, c'est une nette régression par rapport aux années précédentes. Donc ouais, il y a forcément des questions à se poser. Quelle est la part des facteurs extérieurs, de la préparation, du fait que tu ne puisses pas tenir physiquement? Quelle est la part des contraintes internes à l'effectif? C'est-à-dire, quelle est la maîtrise que tu peux avoir quand tu as Neymar et Mbappé sur le terrain, plus Di Maria, plus éventuellement un quatrième attaquant? Comment tu formules ça pour qu'il y ait un certain équilibre? Parce que quand tu joues avec seulement les trois attaquants, comme on a vu, bah, tu as peut-être le problème qui se pose de qui va occuper la surface. Quand tu rajoutes un numéro 9, bah, tu as la question de l'équilibre défensif après. Donc tu as plein de questions aussi qui se posent à ce niveau-là. Et puis tu as la dernière question, c'est ce qui peut être amélioré par le mercato dans un marché qui va être très difficile, où beaucoup de clubs parlent de faire des nettoyages, des purges, etc. Où tu n'auras pas non plus 15 changements dans l'effectif, ni à Paris, ni à Madrid, ni à Barça, ni à la Juve.
Ouais, bah non, mais il va falloir faire mieux avec la même matière première, quoi. C'est un peu ce que tu es en train de dire, quand même.
Bah, disons que il y a plusieurs façons de faire mieux. Il y a façon de recruter des joueurs là où tu as des postes qui le nécessitent. Au PSG, je pense que les postes sont évidents. On aura l'occasion de faire des débats là-dessus aussi. Puis il y a question aussi de ce plan physique, parce que si Neymar et Verratti continuent à jouer 40% des minutes sur une saison, t'iras nulle part. Donc ça me semble assez évident. Tu construiras rien et t'auras pas la maîtrise technique suffisante pour te faciliter tes matchs.
Tiens, une question qu'on pose sur live. La liberté donnée par Mauricio Pochettino en Ligue des Champions est très positive. Elle ne l'est pas en Ligue 1 car les joueurs sont beaucoup moins concentrés et impliqués. Vous êtes d'accord avec cette thèse ou pas, juste de l'implication qui fait que la liberté se retourne contre Pochettino en Ligue 1. Je sais pas, Omar, par exemple, sur ta vision sur cette approche de Pochettino qui ferait qu'on a des bons résultats on a au moins des bons rendus en Ligue des Champions et qui deviennent catastrophiques en Ligue 1 parce que justement les joueurs sont pas assez un peu concentrés.
Je refuse de croire à ça. Ça sous-entend trop que Pochettino ne fait absolument rien et qu'il se réveille à deux jours des matchs de Ligue des Champions qui concernent tout le monde. Non, j'ai trop de respect pour la fonction pour imaginer un truc pareil.
D'accord. Bon. Non, mais effectivement, moi je sais pas honnêtement expliquer. Pour moi, le contexte est tellement différent, notamment par rapport à l'équipe adverse qui tente de t'imposer des choses que les équipes de Ligue 1 ne tentent pas vraiment, elles tentent plutôt de te ralentir et tout. Donc c'est. Ça, en fait, disons que les bons matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre cette saison malgré tout, sont tellement liés à des contextes aussi de jeu, d'adversaires en fait, quoi.
Je pense qu'il y a un raccourci un peu facile parce qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui ont réduit l'expression parisienne au silence, mais le plus total. Tu parlais du match de Nice au Parc. C'est un match qu'on gagne, mais dans lequel on se fait promener. Tu regardes le match aller-retour contre Monaco. Tu fais très peu de temps de jeu qui débouche sur des tirs et sur des situations. À Lille, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de matchs où on ne peut pas dire pour moi que c'est que dû à l'investissement et la concentration. Il y a des failles structurelles qui sont aussi vues en Ligue des Champions, parce que si tu mets aussi le pied dans le plat, en Ligue des Champions, on a eu la maîtrise sur extrêmement peu de rencontres. Ça, il faut quand même le dire. Si tu regardes de septembre à avril, il y a des contenus très 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 inquiétants qui ont tourné dans le bon sens. Et en effet, les vertus morales, et peut-être il y a un peu moins de volonté, un peu plus de volonté et de désir de ne pas lâcher qui font qu'on a fait des résultats. Mais on n'a pas atteint des cimes en Ligue des Champions et touché l'abîme en Ligue 1. Pour moi, c'est un peu plus complexe que ça.
Il y a des problèmes qui se répètent. Au fond, ce que tu n'arrives pas à créer face à City au match retour, c'est un peu le même problème que tu peux te poser quand tu te dis que tu n'arrives pas à créer assez d'occasions face à Lille au retour en Ligue 1 ou même à l'aller, ou bien au retour face à Monaco au Parc. Il y a eu plus de problèmes qu'à l'accoutumée face à des blocs bas cette année, ça c'est l'évidence. Donc les absences de Neymar, de Verratti, évidemment ça fait une certaine différence. Le niveau de Neymar sur les matchs qu'il a joué, ça fait une énorme différence aussi, parce qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un Neymar des deux premières saisons, disons. Donc globalement, c'était un peu l'arme maîtresse face aux équipes regroupées. C'est-à-dire que les adversaires te cédaient le terrain, te cédaient le ballon, mais Neymar, et du coup, ça permettait à Neymar de toucher beaucoup de ballons dans les 30 derniers mètres, dans les 25 derniers mètres, et donc de faire d'autant plus de différence. Là, tu n'as pas eu cette sensation avec la baisse de niveau du Brésilien. Et au fond, tu t'es un peu cassé les dents sur le même type, sur certains types de problèmes un peu similaires entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions face au bloc bas notamment. Là, on parlera aussi de la façon dont les côtés ont été utilisés ou plutôt mal utilisés. Ça, c'est un peu une récurrence. On le disait déjà l'an dernier, tu as un gros souci au niveau des latéraux et de ce que tu peux créer sur les côtés, comme jeu extérieur. Pas seulement pour développer des centres, mais juste éliminer des joueurs et faire des différences à ce niveau-là. Et souvent, la meilleure façon pour toi de te créer des différences et des situations, ça reste la transition, parce que tu as Mbappé que tu peux lancer dans l'espace assez vite. Tu as des joueurs comme Neymar, comme Draxler, comme Di Maria, qui peuvent porter le ballon et faire la dernière passe. Et tu as éventuellement des Paredes, des Verratti qui peuvent faire cette première passe pour toucher les créateurs. Donc à ce niveau-là, je dirais que les deux scénarios où tu as eu la... été le plus convaincant, et paradoxalement, c'est un peu les scénarios que tu retrouves en Ligue des Champions, ça peut expliquer les meilleurs matchs. C'est les scénarios un peu ouverts où soit l'équipe adverse a plus le ballon et tu as la capacité à jouer en transition dans les grands espaces, soit, comme on a vu face au Barça ou au match aller, ou bien au Bayern face au match retour, où l'équipe adverse te craint un peu, n'a pas envie de trop exposer ses défenseurs face à Mbappé, du coup reste dans un entre-deux et laisse un peu de liberté à tes premiers joueurs relanceurs comme Marquinhos, comme Verratti, comme Paredes. Et là, ça peut être un certain festival. Hein, le match aller face au Barça, le match retour face au Bayern, c'est des très très bons matchs au plan technique parce que tu as un peu plus de latitude, parce que ton adversaire te craint un peu. En Ligue 1, tu as rarement eu ce type de problématique. Les adversaires se mettent un peu plus derrière, ferment les espaces. Et là, tu te heurtes au problème soit d'absence ou de méforme de tes créateurs, soit de manque de jeu extérieur et de capacité à déséquilibrer au-delà de la seule personne de Mbappé.
Ouais. Bon, pour repartir sur, à part si Simon ou Omar veut rajouter quelque chose, mais plus pour repartir sur un point un peu plus positif. Quel bon match retenir cette saison, même si on les a un peu déjà cités. Est-ce qu'il y en a un seul que vous voulez citer en Ligue 1 ou pas? Le Lyon PSG quand même, j'imagine.
4-0 une heure à Lyon, c'est quand même bien.
Oui, non, mais c'est vrai que avec un but de Danilo et tout en plus, une belle photo de Danilo. Ouais, non, j'imagine qu'on est obligé de citer celui-là. Je sais pas, Simon ou Omar, si vous voulez en citer un autre en Ligue 1 avant qu'on passe à, je pense, j'imagine peut-être plutôt ce Ligue des Champions.
Non, en Ligue 1, il n'y en a pas d'autre.
Oh, le PSG santé pour le scénario, je pense.
Oh, pour Mbappé, quoi. Que...
pas, pour, ouais. Pas pour la qualité du match, là.
Non, pas pour la qualité.
Pour les 70 minutes de Sarabia, peut-être, Omar. Je sais pas si tu veux nous faire un topo.
Je crois que Montpellier en décembre, c'était un match que j'avais bien aimé. Avec
j'avais une cité, moi aussi. Ouais.
Assez inattendu. J'avais trouvé le rendu ce jour-là plutôt bon.
Moi, j'avais bien aimé aussi dans les matchs en franco-français. La première mi-temps à Montpellier en Coupe de France, la demi-finale. Où je ne sais pas comment on fait pour revenir avec seulement un but d'avance alors qu'on devrait en mettre 10. Quoi. Mais pareil, le match n'est même pas complet. Tu te fais égaler. Tu reviens à 1-1 d'ailleurs. On ne revient même pas avec un but d'avance. Tu es à 1-1 à la mi-temps. Pareil, tu refais... Enfin, tu n'as aucune continuité. Même Lyon... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on passe pas si loin du 4-3. Et si Lyon revient à 4-3, ça peut vite finir à 4-4. Quoi. Enfin, bon, voilà. On nous dit Montpellier était à 10. Non, Montpellier, ils n'étaient pas à 10. Vous confondez avec Nîmes.
Non, non, ça c'est. Montpellier, c'était en championnat qu'ils étaient.
Ils confondent avec Montpellier au parc.
Ah oui, non,
ils prennent un carton rouge au bout de 15 minutes, mais avant le carton rouge, on leur met une belle danse. Hein.
Ouais, ouais, non, non, mais nous, on parle de Montpellier en décembre avec une équipe un peu bis.
Oui, oui, à la
Moisson.
Ouais, avec une charnière incroyable. Je crois que c'était Diallo Kurzawa ce jour-là.
C'était pas Kurzawa, Diallo, Pembele en plus?
C'est exactement
ah,
ça.
Si, si,
défense,
si, si,
à,
si.
Défense à 5, Dagba, Pembele, Diallo, Kurzawa, Bakker.
Avec Herrera, Gueye et
Rafinha
devant eux.
Et Kindy Maria pour compléter l'attaque.
Ouais, malgré ça.
C'est la première de la défense à 3, je pense.
C'est possible, ça, ouais. Oui. Non, non, mais c'est vrai qu'on a eu des. On a eu, comment dire, des compos improbables cette saison. Ça, on en a eu beaucoup. Je ne sais pas si on a eu deux fois la même compo. Mais voilà. Sur les matchs Ligue des Champions, lesquels vous voulez retenir?
Il y en a quelques-uns quand même. C'est peut-être le plus abouti de long en large, c'est le match face au Barça. Le 4-1, ça reste un résultat majeur et magnifié par la prestation de Mbappé ce jour-là. Allez, on va dire que tu vas juste oublier le but et l'action suivante où t'es pas loin de la correctionnelle, mais en dehors de ça, t'étais largement supérieur au Barça et tu mérites totalement ta victoire. Bon, c'est un match qui a été construit par la liberté qui avait été laissée ce jour-là par le Barça, au Marquinhos, Verratti, Paredes, qui avait fait un festival dans la conservation, dans l'orientation, dans la création d'occasions. Ami Cardi intéressant en soutien en pivot, et Mbappé évidemment dans un jour pléthorique et qui mettait un peu de côté son année plus difficile en 2020 en Ligue des Champions. Ça, c'était le match face au Barça, face à un Barça qui revenait bien, mais qui n'était pas encore le Barça du retour et de leur très bonne phase qu'ils ont pu avoir en mars-avril. Mais si je dois retenir, après, il y a pas mal de choses à retenir quand même, mais dans la qualité du jeu, première mi-temps face au Bayern au retour et première mi-temps face à City au match aller, je pense que c'est le plus proche qu'on a été d'une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, en fait. C'est-à-dire une équipe complètement confiante avec le ballon, qui peut ressortir depuis son gardien, qui peut la garder sous pression. Un trio Paredes-Gueye-Verratti qui fonctionne, qui se déplace, qui trouve les décalages. Et des attaquants qui étaient inspirés. Hein. Que ce soit Neymar, c'est peut-être ses deux meilleurs matchs de la saison, ou ses deux meilleures périodes de la saison. Elle est peut-être moins City, mais le match face au Bayern, sûr. Di Maria aussi, Mbappé qui rentrait. Non, je pense que c'était les matchs qui sont le plus porteurs de promesses, parce que c'est là où les joueurs ont le mieux connecté, se déplacer le mieux en fonction de leurs coéquipiers et arriver à créer des décalages par leur inventivité, leur créativité, leur déplacement. Donc non, ça a été des matchs très satisfaisants par la qualité aussi de l'adversaire, c'est-à-dire que arriver à produire un très bon football face à des adversaires de très haut niveau. Donc malgré tout, c'est un peu ça le paradoxe de cette équipe et de cette saison, c'est que tu sens que tu as beaucoup de choses à changer. La qualité de jeu montrée en Ligue 1 a été un moment exécrable et parfois la pire sous QSI. Et malgré tout, tu as des pics de rendement qui te font dire que tu n'es pas si loin en finale. Donc,
des moments d'émerveillement même, je vais aller plus loin.
Ouais, non, mais complètement. Il y a des phases de jeu, première mi-temps face au Bayern et face à City, où c'est un football céleste, hein, faut le dire. C'est la rencontre de pieds magiques et d'esprits qui se comprennent. Et qui ont valu d'ailleurs beaucoup de louanges sur le continent sud-américain à ce PSG-là, parce que tu avais un type de jeu assez plus proche de ce qui se faisait à l'époque en Amérique du Sud que ce qu'on voit en Europe de façon plus mécanisée récemment. Donc ouais, peut-être insister du coup dans cette optique-là, dans cette donnée-là, pour la saison prochaine, ça peut être une idée, parce que malgré tout, si tu dois comparer et regarder l'effectif du PSG, ce qui saute aux yeux, malgré tout, c'est l'énorme qualité technique de certains joueurs. Et ça serait dommage de ne pas investir là-dedans de façon pesante. C'est vrai que la fin de la retourelle, c'était plus cette équipe a des défauts, elle n'est pas en état physique de vraiment tenir le rythme sur 90 minutes. On va plutôt se protéger, on va se mettre à 5. On va accepter parfois de céder le ballon sur des temps assez longs. Quand on aura le ballon, on ne va surtout pas prendre de risques, pas chercher à trop déséquilibrer. On va surtout garder le ballon. Ça a été un peu le match face à Lille, hein, au stade le stade du LOSC en décembre, où on fait un 0-0 plutôt maîtrisé, mais où il n'y a pas d'occasion, en clair. Et c'était un peu le parti pris de la fin sur Tourelle, et c'est le même parti pris qu'il a poursuivi à Chelsea. Là, c'était un autre parti pris sous Pochettino, et je pense que c'est deux mi-temps face au Bayern et face à City. C'est ça qui porte le plus de promesses pour si jamais Pochettino doit continuer dans cet esprit-là et dans cette direction-là.
D'ailleurs, il y en a, dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y en a une qui est gagnée, une qui est perdue au final. Celle contre City est gagnée 1-0, celle contre le Bayern est perdue 1-0. Avec
Choupo. Ouais, parce que t'as le but de Choupo qui arrive à la quantième, mais il y a deux poteaux, il y a des occasions qui sont assez nettes.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on a décorrélé les résultats et le jeu.
Parce que, ah oui, non.
Voilà, tu vois, par exemple, on est tous, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le meilleur match de la saison a été PSG-Bayern, et pourtant, c'est un match qu'on perd. Alors qu'il y a une qualité de jeu, une intensité, enfin, c'est un match majeur, PSG-Bayern. Je crois que tout le monde, sur Twitter, des médias étrangers, tout ça, tout le monde s'accordait à dire que c'était le meilleur match de la saison jusque-là, quoi. Donc c'est pas rien, quand même. Sinon, sur le live, il y a eu beaucoup de... Effectivement, on me dit le match au Camp Nou, c'est le seul qui est complet et qui fera l'unanimité, je pense, effectivement, parce que y a tout. Il y a la qualité de jeu, le score, le scénario, où, comme tu le dis, on a concédé l'ouverture de score avant de leur rouler dessus. Il y a des gens qui citent le match à Manchester. Moi aussi, j'ai envie de le citer. Parce qu'effectivement, c'est qu'un match de poule, mais c'est quand même pas rien d'aller gagner à Old Trafford. Surtout que c'est pas le Manchester d'il y a 3 ans qui était vraiment pas bon. Là, c'est un Manchester qui finit quand même deuxième du championnat d'Allemagne, qu'est-ce que je vous raconte, du championnat d'Angleterre cette saison, excusez-moi, j'étais en train de scroller pour vous mettre la bonne photo, je vous dis d'Allemagne, et qui quand même a fait un parcours européen digne, hein, même s'ils se sont complètement loupés sur la fin en Champions League à Leipzig, globalement, après ils ont tout de même assuré, puisqu'ils sont en finale de l'Europa League, ils sont quand même archi favoris pour la gagner. Donc voilà, pour moi, ne jamais banaliser une victoire à Old Trafford. Et après, évidemment, Mathieu, tu les as tous cités. Est-ce qu'on regagnera un jour, enfin, je le souhaite, mais je ne sais pas si on reverra un jour un PSG qui est quand même allé gagner 4-1, et ça aurait pu être encore plus large, sur la pelouse d'un très grand club. Alors, est-ce que c'était le grand Barça, le pire Barça des 50 dernières années, ça, je laisse les Catalans refaire leur débat rincé à longueur d'année. Toujours est-il que le PSG quand même allait gagner 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone et que ça nous est pas arrivé souvent dans notre vie. Quoi. Voilà pour moi. Omar ou Simon, sur un peu les bons matchs à retenir en termes d'Europe, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête?
Non, c'est ceux-là. C'est des performances majeures qui sont historiques à l'échelle du club, qui ont été, d'un point de vue de la qualité, saluées au niveau européen dans une saison où les matchs, disons, de très grande qualité, de très grande intensité, quand l'enjeu comptait et que le niveau s'élevait, ça n'a pas été le niveau du football des années 2013, 2014, jusqu'à 2016 ou 2017. Quoi. C'était un niveau moindre pour beaucoup de raisons. Déjà le Covid, évidemment, le fait que le niveau du football est un peu baissé depuis quelques années aussi. Et là, le PSG t'a proposé des performances contre le Barça, qui était d'ailleurs un très bon Barça, hein. C'était pas le Barça... qui prend 8-2 au Final 8 contre le Bayern Munich. Hein. C'est d'autres joueurs, c'est une autre équipe. Koeman a fait plutôt du bon boulot. D'ailleurs, le Barça a eu une série de victoires assez invraisemblables en 2021, là où ils sont vraiment pas très loin de vraiment jouer la Liga jusqu'au bout, ce qu'ils ont été de fait. Mais bref, ils sont un peu emmêlés dans les derniers matchs, mais ils ont eu un très très gros moment en 2021 où tu voyais tout le projet de jeu de Koeman et ce qu'il pouvait proposer avec cette équipe. Nous on a pris cette équipe là, on leur a dit bon, maintenant on va vous montrer comment on joue au football et comment ça se passe en Ligue des Champions, avec un super super match à tout point de vue, parce que le match du Bayern au Parc est immense aussi, après un match aller qui était déjà brillant dans un autre style, mais brillant néanmoins. Mais le match du Bayern, tu le perds, alors que là le Barça, tu le gagnes, tu mets 4-1. Des équipes qui mettent 4 buts au Camp Nou, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Betis il y a 3 ans qui l'a fait. Il doit y avoir d'autres exemples que j'oublie, mais c'est vraiment pas... C'est pas toutes les semaines que ça arrive, et non. Vraiment, vraiment une performance immense. Mais non, c'est vraiment ces matchs-là. On peut même citer, c'est pas un match, mais la première mi-temps contre City, où là, pareil, leçon de football, équipe en confiance, équipe efficace. Forcément, la deuxième mi-temps vient forcément gâcher tout ça, mais non. Toute cette période-là de... de l'arrivée de Pochettino au demi-finale contre City, ça a été brillant en Europe. Tu parlais de Manchester, Philo, moi j'avais pas trop aimé ce match, je trouvais l'équipe pas terrible, pas un peu, avec un 11 un peu bizarre dans la composition. Alors il y a des vertus morales, un Neymar en feu, des joueurs qui s'arrachent, t'as aussi ce côté un peu épique et dramatique avec Manchester qui arrive pas à revenir, la barre de Cavani qui aurait pu nous crucifier, Martial qui fait n'importe quoi devant le but, où là tu retiens ton souffle un peu à tout instant, et la délivrance au final avec une super contre-attaque pour gagner. Mais j'avais pas trouvé l'équipe terrible du tout sur ce match-là. Au final, c'était vraiment plus un match de soulagement qu'une immense performance, même si évidemment gagner en Europe contre ce Manchester-là qui avait fait 9-9 sur les premiers matchs de Ligue des Champions, c'était pas couru d'avance du tout, effectivement.
Non, je suis d'accord que les matchs contre le Bayern, Barça, même City sont meilleurs en termes de qualité de jeu, mais aller gagner, je sais pas si vous vous rappelez dans quelle mouise on est avant d'aller à Old Trafford, quoi. Et même quand ils égalisent, il y a le quart d'heure, le début de la seconde mi-temps où on est vraiment pas loin de la sortie. Il y a le coaching de Tourelle, l'expulsion de Fred qui fait basculer la rencontre et tout. Et c'est vrai que dans la première partie de saison, elle a été vraiment pénible, la première partie de saison, à plein de niveaux, le mercato, l'enchaînement, les défaites pourries, tout ça. C'était vraiment une très bonne... En fait, c'était un peu une rencontre qui donnait de l'espoir pour la suite, quoi. Autant la rencontre contre Leipzig qu'on gagne, elle était effroyable, par exemple. C'était une des pires rencontres de Ligue des Champions qu'on ait faites, même si on n'avait pas si mal défendu au final, mais on avait tellement mal attaqué que c'était ridicule. Cette victoire à Manchester, en fait, j'en garde un bon souvenir parce que les clubs français ont rarement gagné à Manchester. Gagner à Old Trafford, c'est pas rien, quoi. C'est plus dans cet esprit-là que je la garde en tête. Après, je suis d'accord qu'en termes de qualité de jeu, bon, il y a une excellente dernière demi-heure, mais le reste n'est pas... Et pas non plus extraordinaire. Omar, as-tu quelque chose à rajouter sur ce point ou on passe au dernier thème, savoir les éléments collectifs à conserver pour la suite, même si on a un peu déjà défloré le suspense au cours de l'heure 20 qu'on vient de passer?
Il y aurait, je pense, que de la redite. Juste un petit mot vraiment sur le match au Camp Nou qui, je pense, est en plus totalement magnifié par la toile de maître qu'avait fait Mbappé ce jour-là, qui sera vraiment pour moi un souvenir immense et je pense une place très très haute dans la grande histoire européenne du PSG.
Très bien. Bon, on est d'accord que... Est-ce qu'on peut dire que c'est le match de la saison pour le PSG quand même?
Allons-y.
Allez, il a été attribué match de la saison 2020-2021, cette victoire 4-1 contre le FC Barcelone. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément le cas sur les années précédentes de sortir le match de la saison, par exemple. Là, pour le coup, il n'y a pas photo. On nous dit que c'est le match qui confirme le changement de mentalité du PSG en Europe. Bon, je pense que c'est peut-être un peu plus long que ça, c'est plus dans la durée.
Je pense que ce qui se passe à Munich un mois après, c'est un pire en finale. Sur le changement de mentalité, on remet en perspective, c'est un match qu'on passe dans nos 5-50 quasiment, où on sort très peu de notre camp, où on subit une trentaine de tirs, beaucoup de situations déséquilibrantes et où on arrive à sortir vivant face à un adversaire qui était nettement supérieur même à ce Barça en réémission là, qu'on a affronté, mais pas... Je crois que j'ai changé d'avis au final. Sortir le Bayern, c'est vraiment la performance la plus incroyable de l'année. Sur deux matchs, ça, je pense que l'Europe aurait pas misé cher sur nous. Alors oui, on a eu quand même de la réussite, mais la démonstration de la première période au Parc légitime totalement notre qualification, même si elle s'est acquise. Enfin, je pense que l'action de la dernière seconde, là, avec Bakker qui glisse devant Sané, aurait probablement pu tout gâcher, mais je crois que c'est vraiment une perf notable. Et je ne sais pas si dans l'histoire du club, on a réussi à sortir un adversaire aussi fort à ce moment-là. Enfin, une équipe clairement qui postulait pour un double sextuplé au moment où on les affronte.
Ouais. Tu as raison, effectivement. Tu as beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi sur le live, en tout cas, qui te soutiennent. Donc, bon. Après, il y a peut-être l'exploit de la saison, le match de la saison. Écoute, on fera avec. Sur les éléments collectifs, les éléments du jeu à conserver pour la suite, est-ce que tu en as en particulier ou pas?
Bah, il faut conserver Mbappé, quoi. Je pense que c'est la clé de voûte de tout ce que tu construiras offensivement, ta capacité à déséquilibrer, ta capacité à mettre des buts en nombre et avoir une menace offensive probablement plus diffuse que ce qu'elle n'a été aujourd'hui. Donc là, je pense que bizarrement, c'est là où tu as ton joueur le plus fort, mais c'est là où on a, je pense, le plus de progrès à faire, c'est dans la capacité vraiment à déséquilibrer. Je pense que le milieu, quand il a été fixé, j'ai envie de dire, a montré des choses intéressantes, en tout cas des vraies forces. Et les points d'inquiétude qu'on avait, c'est-à-dire notre capacité à pas être très étanche en transition, à souffrir le martyr face à des joueurs qui étaient direct et qui allait attaquer les lignes, c'est un peu moins vu parce que je pense qu'on a, quand on a fait le choix d'avoir une haute maîtrise technique, on a un peu remis de l'équilibre dans l'équipe. Donc ça, c'est plutôt à saluer. Après, je pense que globalement, le comportement de la charnière, et dans la charnière d'ailleurs, j'inclus Navas, hein, ton triangle central défensif a été plutôt bon et c'est celui qui a eu, je dirais, sur la régularité, peut-être le niveau le plus satisfaisant, peu importe les affiches qui étaient proposées. Et le chantier, pour moi, et la construction va être forcément dans les couloirs en termes d'animation, en termes de profil et même de jeu dans les couloirs, mais c'est pas la première année où on a un déficit dans ce compartiment-là, mais je trouve qu'il s'est encore plus vu cette année et que le niveau des joueurs de couloir que l'on aligne depuis 2-3 ans est en perpétuelle chute parce qu'on n'a pas fait de vrais choix et que des ajustements. Et maintenant, ces ajustements font qu'on aligne des joueurs qui seraient, à mon sens, peut-être pas titulaires dans le top 10 de Ligue 1 pour certains. Donc, pour moi, le premier des chantiers, il est là dans notre capacité vraiment à non pas avoir des joueurs de top niveau, enfin l'équivalent de Mbappé sur un latéral. Je sais que c'est pas possible, mais je pense qu'on peut avoir quand même des joueurs qui vont être capables d'avoir plus de sécurité défensive et avoir un allant offensif un petit peu meilleur que ce qu'on propose aujourd'hui.
D'accord. Mathieu, Simon, pour compléter un peu cette première analyse de Mars sur les choses à conserver / améliorer, donc.
Dans le jeu sur les côtés, évidemment, la capacité à ressortir sous pression, faudra. Mais ça passera plus par des mécanismes et par du travail collectif que par améliorer la qualité de tes joueurs, parce que tu n'as pas changé ta charnière, j'imagine. À voir, hein, qui sait, il y a des rumeurs sur Ramos. Donc on verra aussi, mais ça reste aussi un axe d'amélioration. Et comme l'a dit Omar, la capacité à vraiment créer des décalages face à des équipes regroupées, ça passera par un meilleur Neymar sur la saison prochaine, ça passera par un Verratti plus présent, et ça passera aussi par son plus de déséquilibre, plus de capacité à faire la différence. Et ça a été un peu l'un des points noirs en fait de ton attaque. Ça peut paraître un peu surprenant parce que quand tu fais la liste des joueurs, tu dis que tu as beaucoup de buts et de capacité à créer du danger dans ton attaque. Et ça aurait été une ligne assez qui n'aura pas de tenue son rang en fait. C'est-à-dire que derrière Mbappé qui fait 42 buts.
42 buts en 47 matchs ouais, joués.
Ce qui n'arrive pas à 20, il me semble.
Kean s'est resté bloqué à 17.
Ouais. Et Icardi à 12-13, j'imagine.
Bah attends, je vais te les dire. Ouais. Neymar 17, donc il doit y avoir moins 10 pénaux dans le tas. Kean 17, donc lui il y a 0 pénaux pour le coup. Icardi 13, Di Maria 7, Sarabia 7. Et encore dans les 7 de Di Maria, je compte le corner d'hier. Sarabia 7, Marquinhos 6, Draxler 4, Gueye 2, Florenzi 2, Danilo 2, Kurzawa 1, Dagba 1, Paredes 1, Herrera 1, Pembele 1. Voilà. Il doit y avoir des CSC qui est depuis de nombreuses années le buteur numéro 5 ou 6 en général du PSG. Quoi.
On n'était pas dans la situation du Real où le deuxième meilleur buteur de la saison c'est Casemiro. Mais malgré tout, tu as quand même une amélioration à faire à ce niveau-là. Neymar te doit une revanche, évidemment. Tu peux compter sur une meilleure saison de sa part, parce qu'on parle d'une saison en Ligue 1 où il aurait pris plus de cartons jaunes qu'il aurait mis de but dans le jeu. Donc ça, c'est un premier point. Mais malgré tout, tu auras eu quand même un souci à la fois sur ta pointe, parce que Icardi n'a pas donné le niveau qu'on pouvait attendre, et aussi un peu sur les côtés, c'est-à-dire Sarabia aussi qui a baissé le niveau par rapport à l'an dernier. Et malgré tout, c'est pas forcément le joueur qui va déséquilibrer, aller en vitesse, en percussion sur un côté et viser le défenseur en un contre un, le défenseur adverse. Donc, tu as sans doute une amélioration à faire à ce niveau-là. À voir ce qui est faisable. Hein. Je crois que l'équipe ce soir met Sarabia et Icardi comme potentiel partant. Donc, à voir comment le PSG compte éventuellement les remplacer si on arrive à les vendre. Et après, ben, je pense que c'est assez évident. Hein. Évidemment, les couloirs défensifs, c'est des achats qui sont obligatoires. Après, la question, c'est qui tu prends. Parce que c'est beau de dire qu'il faut un latéral droit de top niveau, etc. Mais sur le marché, je ne
Il n'y en a pas.
vois pas. Ouais. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là. Il faudra être bon, il faudra trouver la bonne affaire. C'est pas évident à ce niveau. Et le cas du milieu, ben, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que si tu prends les milieux dans l'effectif, tu dis qu'il n'y a pas eu vraiment de cas ou de joueurs qui ont complètement démérité, ont été des boulets absolus de l'équipe. Même Danilo qui a mal commencé, au final, t'es pas dans un cas type Krikoviak-Stambouli. Un joueur qui a été plus utile et qui a fait quelques meilleurs matchs que les deux précités. Mais malgré tout, ben, tu sais qu'il te manque un peu de qualité, qu'il te manque au moins un titulaire clair au milieu de terrain. Donc il va bien falloir faire des choix pour se séparer de certains joueurs et faire de la place, parce que c'est aussi l'une des questions et l'un des points à prendre en compte, c'est que le PSG a un effectif surdimensionné et pléthorique. C'est-à-dire que tu as 13 joueurs entre le milieu et l'attaque. Évidemment, ça laisse aucune place à d'éventuels jeunes joueurs, ça c'est un premier point, mais ça a aucun sens sur le plan sportif économique. C'est-à-dire que tu peux pas continuer à empiler, surtout que là, Pochettino a un peu rationalisé. Tu sais que tu joues avec un seul attaquant de pointe et tu es souvent Mbappé comme ça dans les grands matchs. Pas la nécessité d'avoir Ekin et Icardi en plus en doublure. Donc il y aura sans doute des choix à faire un peu à ce niveau-là. Puis au milieu de terrain, si tu veux faire venir des joueurs de qualité, ça va forcément passer par des départs. Donc à voir ce qui sera possible de vendre et les joueurs sur lesquels tu vas vouloir t'appuyer. Je pense que Gueye et Paredes, c'est ceux qui ont fait les meilleures saisons à côté de Verratti au milieu de terrain cette année, mais bon, on va voir si certains ne sont pas sacrifiés au cas où certaines offres arrivent. Donc, à voir si tu peux vendre les joueurs qui ont moins donné satisfaction. Donc, ça sera un peu le débat, et en espérant réussir à faire un peu de place tant sur le plan de la masse salariale que sur le plan juste de la place dans l'effectif, parce qu'aujourd'hui, les places dans la liste de Ligue des Champions sont complètement prises.
Ouais, voilà, on nous dit on a déjà le max de joueurs étrangers pour la Ligue des Champions,
Ça.
oui, et on a même pas encore compté Bernat. Donc non non, il va falloir faire de la place dans les places Ligue des Champions de façon importante, mais bon, c'est comme ça. Et on nous propose Marusic, Mathieu,
Il a joué à gauche cette année, à Marusic, ça peut être une idée pour la doublure de Bernat.
On dit Serge à 11 millions, c'est pas une affaire. Oh là, bon, voilà. Non, non, les 17 places, oui, effectivement, sont déjà bien remplies au niveau de la Ligue des Champions. On nous dit on va forcément dégraisser, mais pour dégraisser, il faut trouver des acheteurs. Hein. C'est pas si simple au PSG, c'est le problème depuis des années et des années. Donc voilà. Simon, est-ce que.
C'est
Oui,
le
pardon.
débat un peu. Hein. Tu lis un peu la presse espagnole, Madrid, catalane, ils ont qu'un mot à la bouche, c'est limpieza, c'est-à-dire nettoyage. Ils te font des listes de, allez, t'as entre 10 et 15 joueurs qui doivent partir. Cette année, cet été, c'est la révolution, etc. Les premières nouvelles que tu vois, c'est Bale qui veut revenir au Real et toucher
Son
son contrat
salaire.
jusqu'au bout, c'est Umtiti qui veut pas partir, etc., etc. Donc c'est un peu la même question qui se pose pour tous les clubs, et le PSG
C'est pareil
échappe
tous
pas à ça
les ans.
très
Et c'est
bien.
pareil absolument tous les ans. L'an dernier, pareil, on devait virer 8 ou 9 joueurs, je sais pas quoi, finalement, personne n'est parti, quoi.
C'est surtout en plus dans un contexte où le marché est un peu déflationniste, c'est-à-dire que les joueurs qui partent, enfin, ils se doutent qu'ils n'auront pas le même contrat dans d'autres clubs, surtout les joueurs qui sont un peu en situation d'échec. Donc ça nécessite un vrai effort de leur part de se dire je veux jouer, quoi. Pas je veux juste toucher mon contrat et après tout je suis bien à Paris, etc. Donc il faut voir si on aura des joueurs qui seront dans cet état d'esprit-là. Est-ce que Sarabia est dans cet état d'esprit-là? Est-ce que Icardi
Possiblement,
l'est? Est-ce
oui.
que Rafinha l'est? Avec quelques bonnes nouvelles, des pistes qui peuvent te dire que ça peut être le cas, donc ça peut être ça peut être intéressant. C'est pas dit que ce le soit pour Kerrer, c'est pas dit que ça le soit pour je sais pas, pour Ander Herrera, pour Danilo, pour qui tu veux. Donc,
on n'en est pas là.
C'est là la limite.
Ouais. Pour finir un peu sur l'aspect bilan collectif, bilan jeu, tout ça, Simon, est-ce qu'il y a des éléments que tu veux conserver pour en vue de la saison prochaine ou tu les as déjà cités précédemment? Et c'était un peu l'esprit de février.
Rien à ajouter. On pourra analyser l'effectif quand on fera le bilan des joueurs, peut-être.
Ouais, tu as raison. Non, moi, il y a quand même un élément que j'espère conserver, c'est peut-être le regain physique. On en avait parlé dans le bilan de Tourelle, le bilan de Rainer Schrey, le préparateur physique n'était pas glorieux. Sebastiano Pochettino, m'a semble-t-il, fait plutôt du bon travail depuis son arrivée. J'estime que c'est presque lui, plus que son père, qui a relancé pas mal de joueurs en leur redonnant un peu de la densité, du volume, tout ça. Donc, j'espère qu'il sera en forme l'année prochaine, qu'il sera en mesure de proposer une préparation, comme l'a dit Mathieu, une vraie préparation et pas seulement un truc où tu rattrapes en deux temps, trois mouvements. Je me demande si le PSG n'a pas intérêt, quitte à faire carrément ce qu'on n'a pas fait cette saison, sacrifier peut-être un ou deux matchs avec des titulaires en moins, quitte à faire que des matchs nuls ou pas gagner, enfin, faudra voir le calendrier, tout ça, mais à leur faire un vrai travail de fond, parce qu'aujourd'hui, faire des saisons sans préparation, c'est juste plus gérable, quoi. Surtout que là, en plus, on va avoir une année avec beaucoup de matchs internationaux, vu que ça, pas mal ont été reportés de l'année d'avant. On va petit à petit avoir les qualifications Coupe du Monde 2022 qui vont prendre de plus en plus de place, faut pas l'oublier. La saison après, bon, faudra voir. Et puis, faut voir aussi. Enfin, tu peux pas découper le. Décorréler, pardon, l'aspect physique de la qualité individuelle des joueurs. Et évidemment, si tu perds Mbappé, bah, t'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à redire et à refaire, surtout. Écoutez, on a fait un podcast un peu plus court, 1h30 cette fois-ci, 1h36 très exactement. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter un peu sur ce bilan collectif version résultat, enfin avant qu'on passe vraiment aux individualités la semaine prochaine, Mathieu, Omar, Simon.
On peut résumer en disant qu'on a été nul, mais qu'on sera moins nul bientôt. Bon.
Eh bien écoutez, ce sera la conclusion de la part de l'ami Simon. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit donc normalement lundi prochain pour la version individualité. Voilà, on va parler joueurs, tout ça, tout ça. On espère que ce bilan a été assez complet. On a évoqué finalement pas mal de thèmes, de matchs, de tout ça. C'est peut-être un peu compliqué à suivre pour ceux qui n'ont pas vu tous les matchs. On s'excuse si c'est le cas, mais normalement, vous avez, au pire, vous réécoutez les podcasts des matchs en question, vous verrez. Vous trouverez probablement des perles. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée, donc je le redis. Encore merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire positif ou ce que vous voulez sur les publications de quels que soient vos moyens d'écoute, soit YouTube et co. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le Tipeee est toujours d'actualité, si vous voulez nous aider un petit peu, ça sera avec plaisir. Le Rouge et Bleu, le livre que j'ai coécrit pour les 50 ans du PSG, lui aussi toujours en vente, donc si vous avez des questions, tout ça. Niluge du live, oui, j'ai bien reçu ton email, merci pour tes corrections, effectivement, elles ont été transmises à la personne en question, voilà. Et puis, on vous dit donc à lundi prochain pour un prochain podcast. Normalement, ça sera le débrief des perfs individuels de la saison, donc je ne sais pas si on fera sous la forme de meilleur joueur, pire joueur, ou si on fera ligne par ligne, mais bon, ça risque de durer assez longtemps. Donc, on vous dit à lundi prochain, prenez des forces, reposez-vous bien, parce que la saison des podcasts n'est pas encore tout à fait finie. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir, gros bisous.
Ciao.
Ciao, bonne soirée à tous.
Ciao, bonne nuit, bisous.
Voilà, Simon vous a fait un bisou, vous pouvez partir le cœur léger.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.